Donc en fait, c'est l'histoire de deux mecs qui sillonnent tous les bordels mexicains pendant 1 heure et demie. Et en fait, quand t'as 8 ans, tu te rends pas forcément compte de ça, mais pourtant, c'est génial même quand t'as 8 ans.
Si ça se trouve, vous l'avez déjà expliqué, mais pourquoi on est ici exactement ?
Vous êtes ici parce que vous êtes les meilleurs parmi les meilleurs.
Simply the best, down, 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 down.
Bonjour à tous et bienvenue dans le meilleur podcast, le podcast où on parle des meilleures choses avec les meilleurs invités. Je m'appelle Cyrus.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du meilleur podcast. Aujourd'hui, on va se fendre la poire, Cyrus.
Ah, la margoulette.
On va parler,
même.
Hein, la margoulette, cette fameuse expression, se casser la margoulette.
Je viens d'apprendre.
Et bien sûr,
une minute.
On apprend ces choses ici. Aujourd'hui, on va discuter, débattre ensemble de la meilleure comédie française.
Ah, on va se marrer.
Le meilleur film d'humour français.
On va rire.
Je suis Tom.
Enchanté, Tom. Et avec nous pour en parler, on a d'abord un invité qui est déjà venu.
Un habitué, comme
on
l'appelle.
Un habitué, c'est Aurélien Prévost.
Je suis déjà venu, moi.
Ouais.
On va pas laisser un
si,
souvenir.
Si, deux fois, tu te rappelles.
Ok, c'était bien.
Ouais, c'était cool.
Ok, d'accord. Bah,
ah, deux fois, effectivement, ouais. Il est venu deux fois. Ouais.
Et voire trois, si on compte la nuit de l'original, où clairement, il était host avec nous lors de cet événement.
Ah, que la fois où j'étais bourré.
Ouais.
Ouais, c'est ça, ouais, yes. Je me rappelle. Ça, je me rappelle. Normalement, c'est l'inverse, mais ça, je me rappelle quand j'étais bourré.
Il est venu sur la meilleure manière de gagner au loto. Non,
ouais.
Ou meilleure manière de dépenser son argent. C'était quoi?
Ouais, la meilleure façon de dépenser son argent,
gagner au loto. Voilà. Et
le meilleur méchant au cinéma.
Meilleur méchant au cinéma, avec Tales from the Click.
Et la meilleure signature de mail. Moi, je me rappelle que de ça.
Exactement.
La fois où j'ai vomi.
Exactement.
Aurélien, pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas, qui es-tu, que fais-tu?
C'est un peu l'accroche de Flaubert, ça, pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas.
Moi, j'enverrai une lettre. Pour m'excuser.
Donc, pour les gens qui ne me connaissent peut-être pas, j'ai imité un peu Flaubert en mal fait.
T'as 200 000 abonnés sur YouTube, je crois.
D'ailleurs, ouais. On l'embrasse, Flaubert.
Merci. Bah, je vais le voir après. Je vais faire un podcast après. Là, je viens pour me chauffer, pour faire le vrai podcast après avec lui.
D'accord. Bah, on l'a déjà invité. On a hâte qu'il nous invite, en tout cas.
On est chaud.
Vous l'avez vraiment invité?
Ouais.
Parce que j'ai dit à Tom, tu devrais peut-être inviter Flaubert plutôt que moi à cette émission.
Attends, cette présentation dure beaucoup trop longtemps.
Oui, on a Hugo qui est présent, qui attend.
Attends, tu viens de spoiler.
Ouais, mais je suis désolé, mais j'ai le pauvre. Il a envie de parler aussi.
Je voulais juste te dire.
Qu'est-ce que tu vas dire?
Qu'est-ce que je veux dire? Non, mais on l'a invité et il est venu, c'est ça que je
veux
dire.
Ah, trop bien. C'était quoi le thème? Comme apparemment, on parle que des anciens.
Le meilleur cadeau de Noël à moins de 10 euros.
À moins de 10
euros. Ah, ok,
ouais.
Très bien. Bon, bah, tout va bien. Tu peux le copier.
Très bien.
Tu peux le copier.
Ah, cool.
Comme Cad, yes. Cad.
C'est
Gad ne copiait que les gens qu'il connaissait. Tu vois, si on connaît, ouais, ça
on a le droit de. Nickel.
Moi, je suis Aurélien Prévost. Je suis youtubeur actuellement et aussi scénariste et réalisateur.
Tu as une chaîne YouTube sur laquelle on peut te suivre?
Exactement, elle s'appelle comme mon nom qui est écrit sur le visuel de... Il y a un visuel?
Ouais, il y aura un visuel.
Aurélien Prévost.
Ça sera un peu en retard comme d'habitude, mais il y aura les liens et tout ça.
Je vous invite à venir, c'est super comme chaîne.
Et on a un autre invité
avec
nous.
On a un autre invité, effectivement. Un grand amateur et connaisseur de la comédie française qu'il aime décrypter sur sa chaîne YouTube également, qui s'appelle Calmos Club. Nous avons Hugo qui est présent aujourd'hui.
Le mec spoil tout, le pauvre
Hugo.
Non,
mais j'avais envie de lui faire une petite transe de lancement.
Le pauvre Hugo, il a plus rien à dire.
Bah, si, oui.
Si, alors c'est une chaîne Calmos dans laquelle on décrypte les comédies françaises. On a aussi une newsletter qu'on envoie tous les jeudis matin à tous nos abonnés sur le cinéma en général, pas que la comédie.
Ah,
et donc je vous encourage à vous y abonner. Calmos.net.
La newsletter, c'est Calmos.
C'est Calmos aussi.
Tu vois, genre par exemple, le fait que tu dises que c'était Calmos et tout, moi, je voulais, dès qu'il commence à parler, faire « Calmos !» Tu vois.
Ok, ouais, t'avais la vanne.
Et du coup, tu m'as niqué ma vanne.
Bah, ça l'aurait mis dans un mauvais mood. Je peux me remercier pour avoir évité ce moment gênant.
J'aurais adoré.
Et merci Hugo d'être là, ça nous fait plaisir.
Ah bah merci de m'avoir invité, je suis ravi
C'est un technicien de la comédie française.
Enfin un vrai spécialiste dans cette émission.
C'est une élite, exactement, enfin un spécialiste dans cette émission. Mais c'est dur, parce que je réponds à ça, parce qu'à un moment on a reçu un commentaire justement qui parlait de ça, et c'est une question qu'on se pose avec Tom, et donc je me dis peut-être que ça peut être intéressant pour les auditeurs qui nous suivent, de pourquoi il n'y a pas forcément toujours des gros experts. C'est délicat à trouver quelqu'un qui soit à la fois expert et à la fois qui va faire que le dialogue va être cool, qu'on va se marrer, qu'on va faire des vannes, qu'on va garder l'ambiance pote.
Ah mais il n'y a aucune garantie, je vais être sinistre. Je reviens tout de suite.
Et donc nous on privilégie un truc qui fait que la dynamique est là, qu'on ait une bonne discussion, qu'on se marre, même si on n'a pas toutes les infos, c'est pas grave, on n'est pas, tu vois, on n'est pas Wikipédia, on n'est pas...
De toute façon, les gens oublieront aussi vite le podcast que moi, j'ai oublié quand je suis venu, tu vois, donc c'est pas grave.
L'important, c'est de passer un bon moment.
C'est de se vider la tête une heure, voilà, c'est bon, quoi.
Voilà, ok, les haters.
Ok, c'est bon pour vous, ça.
Ça vous ferme bien votre clapet.
Qu'est-ce qui se passe, Cyrus, maintenant?
Ah oui, c'est vrai.
Eh ben tiens.
Eh ben Tom, est-ce que c'est pas le moment où tu vas nous raconter une petite histoire et nous faire rire en même temps? Est-ce que ce serait pas l'heure de ton édito, à savoir Lady Tom.
Quand on gratouille un peu Internet au sujet des films d'humour français, on tombe rapidement sur la question suivante. La comédie française est-elle de droite ? Bah, quand on y pense, c'est pas si con hein, comme remarque, parce que la droite française, bah, c'est une sacrée source d'inspiration pour les trucs marrants. Entre un ancien président cité ou mis en cause dans 10 affaires judiciaires, son ancien premier ministre qui a payé sa femme 500 000 balles pour rien faire, ou encore un ancien maire de Levallois-Perret un peu tête en l'air, hein, qui a oublié de déclarer 13 millions au fisc, bah, on finirait presque par avoir de l'affection pour ces joyeux loustiques qui se retrouvent le bec dans l'eau, à quasiment nous faire croire qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe et qu'ils n'y sont pour rien. On se rapprocherait presque d'une autre figure culte de la comédie française, celle du bisu, hein, quelqu'un que tout le monde persécute et qui n'a pourtant pas demandé grand-chose. Enfin, qui croit ne pas avoir demandé grand-chose, hein, parce que moi, par exemple, ben, j'étais un bisu au collège. Mais attendez, je l'ai bien cherché aussi, hein, je apportais tout le temps mes lunettes, là. Bon, après, rassurez-vous, aujourd'hui, ça va. Hein, j'ai passé 3 ans pas super cool au collège, mais j'ai bien pris ma revanche sur la vie quand je vois ce que mes anciens camarades sont devenus. Au pire, ils ont déjà 5 gamins et au mieux, ils sont en prison. Mais ce qui est vraiment dur hein, quand tu te fais bisuter au collège, c'est que tu comprends pas pourquoi c'est toi qu'on a choisi.
Serpent à lunettes.
Non. Moi en plus j'ai vraiment tout fait pour me faire apprécier par les autres. Hein. Je les aidais à faire leurs devoirs, je leur prêtais mes stylos, je disais à la maîtresse quand ils trichaient pour qu'elle les aide à mieux travailler. Et je comprends pas, j'ai vraiment tout fait pour me faire kiffer quoi. Et le plus flippant quand tu te fais bisuter, bah, c'est que t'as l'impression que ça va jamais s'arrêter. Pourquoi ? Parce que tu ne peux pas raisonner des gens qui en tapent d'autres sans raison apparente. C'est comme si tu demandais à BFM d'arrêter de faire le jeu du FM ou à Michel Drucker de mourir. Ça n'existe pas dans notre réalité. Mais bon, tout ça, ce n'est que mon point de vue, un peu éloigné, je vous l'accorde, sur les comédies françaises, et j'aimerais bien connaître le vôtre, chers invités. C'est quoi le dernier film, français ou non, qui vous a fait rire ? Aurel.
Le Dain, de Quentin Dupieux.
Ouais.
T'as dit film français, comédie française ?
Ouais,
français ou non,
français
pour moi
non.
C'est une comédie, après ton c'est une comédie bon un peu barrée, un peu trash.
Ouais.
Mais je dirais au cinéma, là c'est ça. Tellement drôle, du jardin dedans. Des scènes de comédie incroyables. Personne l'a vu autour de la table ?
Si, je l'ai vu, mais j'aurais dit la même chose en fait, donc ouais. Je suis un petit peu embêté.
Ah merde.
Ouais. Vous avez le droit de parler.
Attends, bah, moi j'ai vu Thalasso de Guillaume Niclou avec Houellebecq et Depardieu. Et pareil, il y a des grands moments de comédie dedans. Donc je dis ça. Tu peux dire Le Dain du coup.
Ok.
Et Thalasso, j'ai vu qu'il était pas mal foutu sur de l'impro.
Ouais, mais c'est trop bien, j'adore la
bien,
forme.
Ça fonctionne bien, Depardieu et Houellebecq.
Ouais, mais ils jouent leur propre rôle, quoi. C'est la suite d'un film de Guillaume Niclou qu'il avait déjà fait il y a quelques années qui s'appelait L'Enlèvement de Michel Houellebecq, qui était très, très. Encore, enfin, je le trouve beaucoup mieux encore que celui-ci. Et là, c'est la suite de ce truc-là, et c'est Houellebecq en Thalasso, qui est emmerdé parce qu'il peut pas boire, il peut pas fumer et tout, c'est sinistre, et qui tombe sur Depardieu, qui lui a du vin planqué dans la chambre et tout ça. Et du coup, c'est plein de scènes où ils parlent et où ils jouent eux-mêmes, tu sais. Avec beaucoup d'autodérision et tout ça, donc c'est magique quoi.
Hugo, du coup, toi, c'est quoi les derniers films qui t'ont fait marrer et tu t'es dit, ah, c'est cool.
Je dirais un peu la même chose qu'Aurélien, mais bon, je vais remonter un petit peu plus loin. J'ai beaucoup aimé Le Grand Bain, par exemple, en dernier, de Gilles Lellouche. On l'attendait pas forcément là, et Le Grand Bain, c'est un truc, c'est à la fois drôle et touchant, et en fait, ça réunit plein d'acteurs différents qui représentent chacun quelque chose de la comédie. T'as Amalric, t'as Philippe Catherine, t'as Guillaume Canet et en fait c'est un film qui est vraiment réussi de bout en bout, alors que Gilles Lellouche est connu pour être plutôt un acteur qui joue des beaufs, des choses comme ça, et on l'attendait pas là, même s'il y avait une Arco il y a une dizaine d'années qu'il avait co-réalisé, qui était très bien aussi, et il avait pas fait de film depuis 10 ans après ça. Je pense que ça avait été plutôt une mauvaise expérience, parce que je crois qu'il aimait pas trop lui-même son propre film. Et donc là, je pense qu'il a laissé mûrir le truc, et puis il a fait un film cool, quoi. Et alors après, j'ai beaucoup aimé Problemos aussi, d'Éric Judor, qui est un film qui a fait un four total.
Malheureusement, je pense que
Blanche Gardin.
Écrit par Blanche Gardin et Noé Debré, qui est un scénariste qui a fait pas que des comédies, d'ailleurs, il a fait Dipane, notamment. Et je pense que cet attelage-là est cool, quelqu'un qui est très drôle et quelqu'un qui sait très bien raconter les histoires. Et donc ça donne un film qui marche pas du tout, finalement, mais qui est... Qui est méchant, qui est... Ouais, c'est ça que j'aime dans la comédie française, moi, c'est quand c'est méchant.
Cyrus,
ouais.
Toi, t'as ton petit film là, qui, dernièrement, que t'as vu, qui t'a fait au pire souffler du nez, au mieux rigoler.
Attends, non, mais alors, déjà, j'ai une remarque sur Problemos. J'en discutais avec un pote, je sais plus qui. Alors, c'est marrant, je pensais que c'était lors du meilleur podcast, mais visiblement non. C'est la première fois qu'on en parle, je crois, de Problemos.
Je crois qu'on en a peut-être évoqué un moment rapidement, mais on n'est pas rentré trop dans le détail.
Et en gros, ce gars me disait, je sais plus trop qui c'est, mais c'était une discussion où la personne me disait que les valeurs qui étaient transmises, parce que tu sais, via ton humour, tu transmets des valeurs, forcément, suivant de ce dont quoi tu te moques, tu vois, ce sur quoi tu fais des vannes, etc. Machin. Et lui, il trouvait ça honteux et scandaleux, quoi. Ce gars-là me disait, ce film, c'est limite devrait pas exister, quoi. Tu vois, genre qu'on mette autant d'argent, de moyens, etc., machin, pour faire un film qui promeut de tels trucs, c'est une honte, quoi. Donc voilà, je trouvais ce point de vue intéressant.
Okay,
juste que j'ai rien pour le défendre, je sais même pas ce que je pense, j'ai pas vu le film.
Donc ça a
mais
pas
voilà.
choqué tout le monde, ça a choqué un gars, si je sais même plus qui, mais ce gars dont on ne sait pas,
ça l'a vraiment
c'est même plus qui c'est.
Choqué. Il a dit je veux que Judor meure, je crois même, tellement il a
ouais,
pas aimé.
Mais il
le...
a pas fait d'article dans 20 minutes. Tu vois, si, peut-être s'il en avait fait un, bah, ça aurait ouais. fait un effet boule de neige et Eric Judor.
Non, mais en tout cas,
métier.
Moi, quand je discutais avec cette personne, j'avais. Enfin, je t'ai dit, je me souviens plus exactement la discussion, mais. J'en étais assez convaincu, quoi, tu vois.
Mais
non,
c'est
contre...
toi le gars en fait. Je parle avec un mec, je sais plus qui. Assume, c'est ton podcast.
Je tiens que j'ai pas vu Problemos.
Ouais, c'est ça.
Non, par contre, je me rends compte en vous écoutant que je vais très rarement voir des comédies au cinéma. Et je crois, c'est un peu triste ce que je vais dire, mais c'est parce que je considère que inconsciemment.
Je suis plus drôle que la comédie.
Non, pas du tout. Non, je considère inconsciemment que c'est une forme de sous-film.
Waouh!
Je m'explique.
Que tu peux mater sur ton ordi alors que le dernier
Nolan,
tu veux le voir au cinéma. Quoi.
Exactement.
Pauvre merde.
Gros, par rapport à l'expérience, tu te calmes. Par rapport à l'expérience de cinéma, je trouve que quand je vais avoir le choix entre une comédie et un truc où, je sais pas, ça va être soit par rapport à des réalisations de dingue, effectivement, genre, je sais pas, du Interstellar ou en ce moment Ad Astra que j'ai pas encore vu, mais tu vois, je me dis pour ce genre de truc, faut le voir au cinéma, tu vois. Et par contre, la comédie, ça va pas me déranger de le voir en trois fois, en trois nuits différentes,
après, mon gars,
sur Netflix.
Ça te fait pas de rire
ouais, voilà, c'est ça,
au
c'est
moment
ouf.
Où plein de gens autour de toi rient, ce moment de communion extraordinaire.
C'est vrai.
Trop bien.
Ce que t'as pas chez
bof,
toi.
Bof,
si
ça m'arrive.
Très nombreux.
Non, mais
ils partent tous de rire.
Ça, non, mais ça m'arrive au ciné, donc quand je vais voir un film comique, ça m'arrive de temps en temps. Mais en fait, déjà, souvent, je rigole pas au. J'ai pas l'impression de rigoler au même endroit.
Ah oui, ah ça c'est gênant.
C'est vrai que tu
parfois.
Rigoles beaucoup au générique, ouais. Moi ça me gêne à chaque fois au cinéma. Ouais. Et le générique, tu te marres, et je te dis Cyrus, on y va. Et
ouais, les noms de famille ouais. me tuent quoi. Non, je sais pas. Ouais, et puis j'ai l'impression que.
À la caisse, tu te marres aussi au popcorn, et je te dis ça me gêne.
T'es obligé
pendant
de
film,
tu vois, t'es obligé de rigoler. Tu vois, quand tout le monde rigole, t'es obligé de rigoler quoi.
Ah, c'est un élan, ouais. C'est cool.
C'est
ouais,
vrai qu'il y a.
Ça me bloque.
Il y a ce phénomène où t'es devant un film souvent pas bon. Et les gens rient autour de toi et t'as l'impression d'être déconnecté de l'humanité, en fait, de plus savoir où t'habites.
Ça, c'est dur.
Mais putain, mais... En fait, c'est la dépression.
Et en fait, je suis en train de me rendre compte que l'un des derniers films... Alors, pour répondre à ta question de manière précise, le dernier film où j'ai rigolé, c'était aux États-Unis. Je suis allé voir John Wick au cinéma.
Ok.
John Wick 3, qui n'est pas du tout un film d'humour à la base.
Donc, c'est du second degré enfin...
Mais toute la salle, on était mort de rire. Parce que, bah, tu vois, genre, le mec, comment il défonce les ennemis est tellement badass qu'à un moment, juste, on était mort de rire, quoi. Et c'était trop cool, effectivement, d'avoir ce truc, en plus, dans un pays étranger, etc., de dire, de rigoler tous ensemble devant une scène. En plus, j'étais claqué, j'étais hyper fatigué et tout, et on se marrait de, mais ça n'a aucun sens ce qu'il est en train de faire, tu vois. Donc, ça, c'était drôle. Et en plus, c'était cool parce que c'était pas un film qui était fait pour ça à la base. Donc, ça, c'était.
Ouais, c'est vraiment spontané pour le coup, et ouais, t'es pas obligé de rire.
Et l'un des derniers films que j'ai vu d'humour, c'est un vieux film, mais il est repassé dans un cinéma qui s'appelle Le Grand Action à Paris. C'est un film des Zaz.
Aha.
C'est-à-dire un film avec Leslie Nielsen sur « Y a-t-il un pilote dans l'avion ?»
Trop bien.
Qui était une école d'inspiration pour beaucoup de réals français, de gens qui font de l'humour.
Ouais, pour les nuls principalement. Quoi.
Ouais.
Et ça, on s'est marré. Ça, c'était vraiment. Voilà. Mais encore une fois, tu vois, genre, il y a plein de trucs où j'ai rigolé. J'ai l'impression que j'ai rigolé. Et... Moi, j'ai rigolé beaucoup trop fort pour ce que c'était, quoi. Tu vois, par rapport aux autres.
Ah, c'est-à-dire des moments où tu ris.
Ouais,
trop
moi,
fort,
ce qui me fait,
dis,
ce qui me fait rire, me fait. Ce qui me fait rire, me fait vraiment rire. Et par contre, la plupart du temps, je suis là, je souffle du nez, tu vois. Et toi, Tom?
Moi, le dernier, je vais m'avancer sur l'autoroute de la mauvaise prononciation deux fois.
Ouais.
Où c'est le film tiré de la série d'interviews de Zach Galifianakis.
Ah, Between Two Ferns.
Between Two Ferns, qui est sur Netflix.
C'est Galifianakis que
tu as
mal
dit
pour le coup.
Mais du coup, c'est pas au ciné. Là, on parlait d'expérience.
Non, pas forcément. C'est le dernier film qu'on ait vu comme ça. C'est toi
t'as
qui as focusé
dans la question.
Non, pas spécialement.
Moi j'ai cru que c'était français, tu
vois.
Ouais,
non, c'est juste le dernier film qui vous a fait rire.
Soit
dissipé,
soit t'es très mauvais en question.
T'inquiète, c'est pas grave, Cyrus.
Ah, j'avais compris ciné.
On demande la VAR. Enfin, pas le film. Pas la VAR de. Yes. Non,
bah, le dernier truc qui m'a fait rire dans ce cas.
Bah ouais.
Moi je pense que.
Désolé.
Je pense que t'as dessiné.
Mais je pense que c'est pas si.
Les auditeurs viennent.
On peut passer outre cette.
Si c'est tout compris, moi le dernier truc qui m'a fait rire, c'est quand Cyrus il est arrivé en retard.
Ouais, ça c'est vous, c'est
vraiment.
Moi j'ai l'habitude, mais c'est du comique de répétition.
Ouais, bah c'est ça.
Est-ce qu'on peut invoquer le tome du montage et mettre la séquence où tu poses la question et voir qu'il y avait raison.
Je sais pas trop, parce que j'aurai très peu de temps pour faire le montage.
D'accord.
Du coup, j'irai peut-être pas jusque là.
Ok.
Mais vous, derrière votre poste de radio, vous ferez une idée précise et vous saurez au fond qui a raison.
Ok.
Du coup, Between Two Ferns, j'ai très mal le prononcé.
Non, c'était très bien.
C'est une déclinaison d'une émission satirique d'interview qu'a Zach Galifianakis, où en gros
il
reçoit.
Très bien prononcé par contre.
Non, je me suis entraîné un peu.
Ah, Galifianakis.
Galifianakis.
Ah bon ?
Tu peux le dire à chaque fois, je vais devoir essayer de le dire.
Zach Galifianakis ?
Ouais.
Galifianakis.
C'est ça, hein. C'est ça. Le spécialiste.
Alors, ouais, c'est le mec, juste qu'on précise, dans. C'est
le mec barbu dans Very Bad Trip, mais voilà, c'est exactement. Dur de le réduire à ça. Quoi.
Bah si, allez.
Et j'en profite.
Il était dans Tim Eric aussi, qui est un super.
Ouais, personne n'a vu. Allez, le barbu dans Very Bad Trip.
J'en profite aussi, les gars, pour vous dire que c'est Jerry Seinfeld et non Seinfeld. Comme vous l'avez dit 20 000 fois dans votre podcast, j'en pouvais plus.
Ça marche.
Seinfeld, il n'y a pas de I.
Ça marche.
C'est pas Seinfeld.
Bah écoute.
Okay.
Ah ouais, c'est marrant. C'est marrant.
Ah, je
pour moi,
que Yacine et Shirley ne vous aient rien dit.
Mais moi, je confonds avec Michel.
Fou, moi.
Moi, j'ai confondu avec Michel Field souvent.
Ah ok.
Mais du coup, c'est pour ça que je.
Pardon, hein, mais il fallait que
moi,
ça
je confonds avec Michael Phelps, le
yes.
Nageur là. Non,
est-ce qu'on peut faire appel à Tom au montage pour couper ça?
Non, mais. Arrêtons de faire appel à Tom au montage.
C'est drôle parce que Seinfeld.
Oh oui! Oh le bonheur!
Pour
il
moi,
l'a bien
c'est agréable, hein, c'est satisfaisant.
Non, pardon, ça
pour
fait
moi,
un peu tortionnaire
ouais,
de.
Ouais, c'est hyper. Non, mais je vois ta condescendance.
J'essaie de rester calme, mais j'étais en voiture.
Du coup,
j'ai failli...
je vais vous pitcher le film après, mais j'attends de
non, mais...
régler vos échauffourées.
Non, mais c'est juste intéressant psychologiquement. C'est intéressant psychologiquement parce que pour moi, le TV show, effectivement, ça s'appelle Seinfeld, mais j'ai pas fait le rapprochement avec le mec que j'appelle Seinfeld. Voilà, c'est très bizarre. Vas-y, tu peux.
C'est tellement
incroyable.
Si vous avez compris ce que vient de dire Cyrus, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Ce serait bien pour nous éclairer. Du coup, Between Two Ferns, c'est une adaptation d'interview que fait Zach
Galifianakis.
Yes. Dans lesquelles il reçoit des stars d'Hollywood. Ah, cette phrase qui sent trop 1995.
Et en français, c'est entre deux fougères.
Exactement. Et du coup, c'est des petits programmes courts où c'est joué. Et c'est des petits moments de malaise d'interview où il va poser des questions hyper trash.
C'est incroyable.
Hyper cash, c'est extrêmement marrant.
C'est très drôle.
C'est très marrant,
assez
ouais.
Gênant si vous aimez l'humour, The Office, etc. On est dans cette même veine.
Hugo, il a pas dit que c'était drôle. C'est drôle ?
Le film ou
Non, les interviews.
Bah ouais, j'en ai pas vu beaucoup, j'en ai vu 2-3.
Moi, j'en ai pas
vu
beaucoup non plus. C'était très marrant aussi. Le film est cool.
Non, mais je veux juste vérifier si Hugo trouvait ça drôle.
Voilà, faire version un petit peu mockumentaire et très sympa. On le suit, du coup, il y a une intrigue autour de ça. Et dans le film, il y a beaucoup de ces interviews-là. Et c'est extrêmement marrant avec un gros casting de type Matthew McConaughey, de type Paul Rudd, etc.
Ah oui,
etc.
Parce qu'à chaque fois, il faut savoir que c'est des stars qui l'interviewent.
Ouais, t'as vu ? Je fais hyper attention sur
ça. Ah, on dit Rudd ?
Non, on dit Rudd.
Ah oui.
Ah oui, il est tatillon celui-ci.
Et comment tu dis Judd Apatow? Ah merde,
comme
ah, merde
toi.
Ah merde, je l'ai dit.
Comme toi.
Et je crois que c'est Apatow. C'est Apatow ou...
Apatow.
Je sais plus.
On a parlé très brièvement de l'influence
des Zaz,
des
films de Zaz. Zaz.
Exactement, notamment pour les
nuls. Pourquoi on dit Zaz déjà?
Et Alain Chabat.
C'est les deux frères Zucker et Abrams.
Merci.
Donc c'est Zaz, Zucker, Abrams, Zucker. Zaz.
Rien à voir avec la chanteuse du coup.
Non, il se lave. les Black Twitter 2014.
Ouais, et là, ça y est, ça part. Bim. du coup, qui a été une influence pour notamment Alain Chabat. C'est quelque chose.
Alors,
qui...
ça se prononce Alain Chabat.
Alain Chabat.
Alain Chabat.
Ça se prononce comme ça. et c'est vrai qu'on l'associe souvent à une école de comédie américaine au même titre que toute l'école du SNL, etc.
Alors, ça se prononce SML.
On associe. yes, ça va être une longue émission. Ça va être bien aussi, à ce rythme.
Emission.
Au même titre qu'en Angleterre, on associe souvent l'humour british à ce côté un peu Monty Python pour brasser très large et ce qui en découle. Est-ce que pour vous, on a en France un humour français qui est identifiable, qui existe, qui a des codes, ou est-ce que c'est quelque chose qui au final n'existe pas vraiment? Vous en pensez quoi?
Pose la question à Calmos plutôt, ça va être plus intéressant qu'Aurélien, s'il te plaît.
Bah, je suis un peu d'accord avec ce qu'il va dire. Le côté méchant, c'est toi qui disais ça tout à l'heure.
Ouais.
Il y a ce truc-là un peu, parce que c'est vrai qu'on va plus dire que c'est le splendide, le genre d'humour un peu français, que les nuls. Parce que les nuls, c'est très anglo-saxon, effectivement. Quoi. Mais je te.
C'est vrai.
Pardon, je t'ai.
Non, mais vas-y, exprime-toi, parce qu'il faut que je réfléchisse.
Mais bah, si on devait le caler quelque part, ça serait un peu ça. Après, c'est vieux le splendide. Mais le côté ancré dans la vraie vie, un truc un peu social avec des connards, quoi. Ouais. Mais c'est très. En même temps, il y a que eux qui faisaient ça, je suis en train de me dire.
Je pense que la méchanceté, c'est important. Après, on a aussi une culture du comique de situation. C'est-à-dire que les Américains, c'est plus un peu des exploits personnels. C'est un mec qui va... C'est un Will Ferrell qui va faire des conneries pendant une heure et demie. Nous, il y a des exceptions, comme Louis de Funès, qui effectivement porte des films sur ses épaules. Mais on aime bien installer des situations et faire rire par des trucs dans lesquels on peut se reconnaître dans la vie de tous les jours. Ce qui est un peu moins le cas des Américains aussi.
C'est vrai qu'on a moins de figures fortes individuelles sur lesquelles va reposer un film. Gad Elmaleh l'a testé sur des films qui tournaient plus autour d'un perso, mais c'est vrai qu'on est plus sur des...
Bah, malheureusement, j'ai envie de dire.
Des personnages, un peu plus.
Ouais. Parce qu'au States, il y a plus de monde, donc il y a plus de... tu peux plus facilement monter des comédies, il y a plus de monde même pour les faire. Mais ce malheur de les mecs hyper forts, où il n'y a pas de film à leur hauteur, c'est triste. Est-ce que tu vois que Jamel n'a pas fait toute une carrière de dingue au cinéma, ou Gad Elmaleh, ou même Chabat, ou Eric Ramsey, ou tout ça. Enfin, tu vois, c'est compliqué, quoi. Tu vois, même des Dujardin, des Cadmerade, ils n'ont pas des milliards de
sur
films.
Sur OSS, un peu, à la limite, où vraiment, ça tourne autour d'un perso, mais c'est vrai que c'est un peu plus rare.
Bah, c'est dur, quoi.
Et est-ce qu'il n'y a pas... Moi, j'ai l'impression qu'il y avait quand même, au niveau des thématiques des comédies françaises, on est toujours sur des trucs très franco-français, versus peut-être des sujets plus universels qui sont traités dans d'autres cinémas, où par exemple, tu l'as dit, on peut parler de films sociaux ou même communautaires, tu vois, que ce soit Bienvenue chez les Ch'tis, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Intouchables, Les Bronzés, où vraiment ça va être les Français au Club Med, les Français au ski, etc. Est-ce que c'est pas un peu ça qui aussi se définit notre humour français, ou de toujours avoir des trucs qui parlent à un quotidien très réaliste?
C'est vrai qu'aux US, on a moins ce truc, j'ai l'impression, enfin, ils ont moins ce truc de. Genre Thanksgiving, tu vois, genre les films sur Thanksgiving et faire flopper de films sur Thanksgiving, tu vois. Je sais pas, peut-être qu'on connaît
moins. Alors peut-être qu'ils en font, mais qu'ils traversent pas les frontières.
Exactement, voilà.
On les connaît pas, quoi.
Ouais, tu vois. Ouais. Ou alors même, tu vois, genre sur les rednecks, t'as quelques films sur les rednecks, mais c'est pas des films comiques en fait. Je pense à Itonia par exemple,
ouais,
ce genre de film.
Ouais, il y en a beaucoup moins. Mais c'est pas des, c'est pas vraiment des comédies. Mais
tu vois, voilà, c'est ça ce que j'ai.
Tu prends des, je sais pas, des Marie à tout prix, qui est un sujet au final qui peut avoir lieu n'importe où, un American Pie, même si effectivement il y a des codes d'université et tout, ça traite de la puberté. Tu prends The Mask, enfin je veux dire, c'est des thématiques où on arrive à avoir du grand spectacle et toucher des sujets qui sont pas liés à des situations dans lesquelles on se reconnaît forcément, j'ai l'impression.
Ouais, il est pas trop question de lutte des classes, de pauvres, de riches, de trucs, de tout ça, quoi.
Est-ce que ça, c'est pas, vous pensez, une part de l'ADN peut-être, de l'humour français, d'avoir.
Bah, dans les films moins. Parce qu'après, ça dépend aussi, parce que quand on parle de comédie française, c'est vrai qu'il y a tout un pan de. Enfin, que ce soit Les Nuls, ou Cadet Olivier, ou Eric et Ramzy, ou tout ça, où c'est vraiment du potache et où il n'y a pas trop ce truc-là, justement. Mais après, t'as aussi, si tu fais du Toledano Nakash, ou si tu fais du Bakri Jaoui, ou du Clapiche. C'est vrai que là, t'as plus ce truc-là, mais c'est peut-être une veine qu'il y a aux États-Unis. Là, j'ai jamais réfléchi à ça, mais...
Les Américains, quand ils montent un film, peut-être qu'ils ont aussi l'intention de s'exporter dans le monde entier. Donc, il faut que traiter des thématiques universelles, alors qu'en France, bon, on se dit, on va sortir en France, donc on va parler de thématiques françaises. Enfin, je sais pas ce qui se passe dans leur
tête. Non, mais c'est possible. Et peut-être même que, du coup, notre réaction en allant vers des trucs niches, genre les ch'tis, genre des trucs hyper communautaires, etc., c'est pas une manière d'être sûr de toucher un public, parce qu'on se dit, si on est trop généraliste, on risque de se faire boucher par, de se faire bouffer par des industries plus fortes comme les industries américaines.
Ça, je pense pas, parce que les ch'tis, c'est parce que c'est l'histoire de Danny Boone, tu vois. Et ensuite, comme ça a explosé tout, et bah, du coup, ça a lancé un mouvement de films communautaires, entre guillemets.
Ok, t'as raison.
Je pense qu'à la base,
j'étais convaincu, vraiment.
Ça vient vraiment de lui. Et après, je pense que c'est ça, c'est si tu construis un film autour d'une thématique, il faut qu'elle soit forte et que tu te dis, ça va parler aux gens. Alors que si t'as une superstar, si tu construis un film autour d'un mec bankable de ouf, t'as pas besoin, tu vois. Si tu veux vendre un film potache comme La Cité de la Peur ou Pamela Rose et tout aujourd'hui, si t'as pas du jardin derrière ou si t'as pas. Il y a malheureusement plus grand monde, comme tu parlais dans une vidéo actuellement, pour monter des projets de grosses comédies un peu potaches comme ça au cinéma français. Il n'y en a pas, tu vois. À part si, la bande à Fifi, ils font pas des films communautaires ou sur des thèmes de société, parce qu'ils sont populaires.
Ah,
donc ils peuvent construire des films.
Je suis désolé, mais je sais pas qui c'est la bande à Fifi.
Philippe Lachaud, pardon, c'est
Babysitting,
Alibi.com, et Nicky Larson. Là.
Ouais.
C'est pas des thématiques de base qui sont rassurantes ou
J'en ai pas vu un seul.
Qui rassemble le monde entier. Mais vu qu'ils sont populaires, ils peuvent monter.
Hugo non plus, il l'a pas vu. T'as vu, toi,
j'ai vu les deux. Babysitting.
J'ai pas vu Babysitting 2. Ah, bah t'as pas vu les mieux. Alibi.com et Nicky Larson, c'est mieux.
Ah ouais, Ah, moi, Babysitting 1, j'ai trouvé ça intéressant.
Ouais,
je pense que maintenant il est vieux.
C'est un premier film, c'est intéressant. Mais
ouais, en gros,
moi, je trouve ça quand même grave. Quand c'est un film d'humour, dire c'est intéressant, c'est que le film est à chier, non?
Mais non.
Non, parce que c'est un peu potache. Après, c'est des humours qui te touchent pas.
Est-ce que t'as les gens qui t'as soufflé du nez?
Ils font un film, hein, donc comme un premier film, ça reste un premier film, que ce soit une comédie ou pas.
Non, mais tu vois, genre Re, par exemple, je l'ai vu, je te dirais pas c'est intéressant, je dirais c'est marrant, tu vois.
Ouais.
Non, mais
pour moi, c'est
beaucoup mieux que Alibi ou que Babysitting.
Ce qui est intéressant, je peux m'expliquer, c'est dans le parti pris de Réal, où en gros, il y a un côté on flashback où beaucoup de parties du film est tournée à la GoPro, type c'était la filmée au portable pendant ce qui s'est passé. Donc c'est intéressant dans ce sens-là d'avoir une prise de risque.
Mais est-ce que c'est
marrant? Mise en scène sur un premier film.
Ouais,
c'est pas mon humour, mais il y a deux, trois trucs marrants.
Si, il y a des trucs marrants. Il y a un ton, il y a un truc.
Il y a un vrai parti pris en tout cas. Et du coup, ça me permet un peu de rebondir sur ma prochaine question qui est quels sont pour vous les ingrédients d'une bonne comédie française? Qu'est-ce que vous, vous recherchez quand vous allez voir un film français d'humour? Qu'est-ce qui marche pour vous?
Christian Clavier.
Bah, moi, j'aime bien quand ça fonctionne, quoi. Quand, parce que souvent, tu vois, moi, je vais voir beaucoup de comédies françaises et tu te dis « Ah putain, je vois ce qu'ils ont essayé de faire. » Mais ça prend pas forcément tout à fait, quoi.
Pourquoi, tu penses?
Bah, parce que c'est dur pour que ça matche, tu vois, en humour, un truc, hein, une heure et demie, scénariste, les acteurs, le réal, le prod au-dessus, le machin et tout. Si tu sais pas exactement où tu vas et que tu fais des concessions en chemin et que t'es pas forcément ultra expérimenté, c'est super dur de tenir ton ton, parce que t'as un ton de comédie et il faut réussir à... Chaque film, en fait, a un ton un peu magique qu'il faut réussir à tenir, quoi. Et les gros films qu'on kiffe français, ce sont des films qui sont faits avec énormément de cohérence. C'est souvent des films qui sont un aboutissement d'une collaboration entre des mecs, ouais, qui se chauffent, qui, les nuls, la Cité de la Peur, c'est ça.
En fait,
c'est, ils ont bossé pendant...
C'est une vision qui est respectée du début
bah,
à la
c'est
fin.
C'est ça, quoi. Ils y vont, ils savent ce qu'ils font, et ensuite, ils feront le film qu'ils ont envie de faire, ils en feront pas un autre, et ils peuvent pas se laisser parasiter par autre chose.
Un parti pris.
Ils savent ce qu'ils font, les gars, quoi. Et c'est vrai que quand tu montes ton film tout seul, et qu'ensuite, t'as ton prod qui te dit « faut tel gars », quand tu réécris ton scénar 8 fois, que tu sais plus où tu veux aller, quand, enfin, j'en sais rien, moi, je suis pas... Moi, je fais ça, mais au niveau du sketch, donc j'en suis loin. Mais je vois déjà à mon niveau comment ça peut être compliqué de ne pas se laisser parasiter par autre chose. Bah putain, quand tu fais un long métrage. Mais tout en. Enfin, un prod doit faire chier, hein. Il doit dire attention à ci, attention à ça, etc. Par exemple, Alain Chabat dit lui-même qu'il n'était pas, il n'était pas un bon producteur de film. Parce qu'il laissait trop sur La personne aux deux personnes, un film de Nico et Bruno avec Chabat et Daniel Auteuil, dont tu as fait une vidéo dessus, je crois.
Enfin, qu'on
je
suis sûr, recommande.
Que j'adore. Qu'on recommande, qui est un ovni total, mais qui est vraiment ouf. Mais c'est un ovni total, parce que c'était Chabat qui produisait, et
raconter vite fait l'histoire
C'est l'histoire de Gilles Gabriel, donc Alain Chabat, une star des années 80, de nos jours, qui n'est plus connue, donc, mais qui aimerait quand même toujours bien avoir un peu de notoriété.
Bojack Horseman.
Qui renverse en bagnole un mec ringard aussi coincé dans les années 80 qui travaille à la Défense, qui est joué par Daniel Auteuil. Incroyable acteur Daniel Auteuil, j'ai découvert tardivement qu'il était aussi fou que ça. Il le renverse.
Il se fait renverser par lui.
Voilà, il se fait renverser. Attends.
C'est Daniel Auteuil. Chabat
se fait renverser par Daniel Auteuil.
Non, c'est Chabat. C'est ça ?
Ouais, et il se retrouve dans sa tête.
Bah ouais, mais c'est Chabat qui est en bagnole au début. En tout cas, Chabat se retrouve dans la tête de Daniel Auteuil.
Ah oui, t'as raison.
Et tout d'un coup, Daniel Auteuil, qui bosse à la Défense dans un monde. Enfin, c'est les mecs, Nico et Bruno, c'est les mecs qui faisaient le message à caractère informatif. Donc, ils ont un univers très bureau à l'ancienne, années 80 et tout, à mourir de rire, très absurde et tout. Et il se retrouve soudainement avec Alain Chabat, star des années 80, dans sa tête, hyper rock'n'roll et tout, et qui va rock his world, comme dirait Michael Jackson. Et du coup, c'est un buddy movie, mais entre Daniel Auteuil et Alain Chabat dans sa tête. Donc, c'est fou ce truc-là.
Ouais.
Et ils ont eu ça. Enfin, c'est trop beau. C'est très ambitieux et tout. Alors que c'était un ovni total. Et c'est Chabat qui produisait et qui disait oui, bon, bah, j'ai un peu trop laissé une liberté totale. Et du coup, bon, bah, en vrai, au final, ça se fait pas en fait de faire ça. C'est comme sur Re, Chabat dit ok, le film est culte aujourd'hui et tout. Mais à l'époque, en vrai, c'était les Robins des Bois. Les Robins des Bois, c'était des trucs carton-pâte. Donc on n'aurait pas dû aller faire un film à 15 millions qui devait faire au moins 2 millions pour rentrer dans ses frais. Parce que les Robins des Bois, c'est pas ça. Les Robins des Bois, c'est.
Ils ont fait 2 millions ?
Ouais, ils ont fait. C'était censé être un échec parce qu'il avait fait 14 millions d'entrées avant, mais en vrai, le film n'a pas du tout perdu d'argent. Enfin, il n'a pas gagné énormément, mais il n'en a pas perdu. Mais c'était pas un film avec l'ADN des Robins. Donc il a très bien vieilli aujourd'hui et tout. Mais en vrai, à l'époque, les Robins des Bois, c'était pas ça. C'était un décor en carton et c'était ça le concept.
Ils viennent du théâtre.
Ouais, voilà, c'est ça. Et lui-même dit que bon, il s'est emballé, qu'il s'est enflammé, et puis il venait de faire lui-même en fait, il s'est pris au jeu du. Je viens de faire Astérix, Obélix, Mission Cléopâtre. Il s'est chauffé tout seul. Il a l'impression comme si peut-être au fond de lui, il se disait, j'ai pas le choix, faut que je fasse tout péter.
Ouais,
quoi,
mais est-ce qu'il regrette vraiment d'avoir fait ces films-là? J'en suis pas sûr parce que.
Et ben on va lui demander.
Enfin,
il est là.
Je ne sais pas.
Alain Chabat.
Non, c'est des omnis total. Mais en tout cas. À l'époque, ça a été très dur pour les Robins, tu vois, et pour lui.
Ouais.
Aujourd'hui, le film est culte.
Ouais, mais justement, moi, je préfère largement La personne aux deux personnes. Et pour répondre à ta question, moi, je demande à un film qui ait une vision, quoi, que quelqu'un me dévoile son univers. Nicolas et Bruno, ils ont vraiment un truc.
Ah ouais, incroyable.
C'est vraiment.
Ouais, parce qu'on revient sur les ingrédients.
Ouais.
Voilà, pour l'auditeur. Ouais.
Vas-y, Hugo.
On a perdu.
Les ingrédients de l'humour. Alors, une vision d'un réalisateur. Donc, c'est pareil pour
tu
le.
Je comprends pourquoi je voulais que ce soit lui qui parle et pas Aurélien.
C'est pareil pour
là,
le.
Là, on a la filmographie d'Alain Chabat, on n'a rien à.
Le Splendide, c'est pareil, c'est des mecs qui ont une vision du monde qui est hyper noire d'ailleurs. C'est quand on voit Riyad Satouf, quand on voit Quentin Dupieux, quand on voit Léo 1617, c'est des trucs que t'avais jamais vu ça avant et c'est ça que je demande à une comédie, c'est pas refaire. Le troisième, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu parce que ça a fonctionné. Et donc il y a ça, il faut aussi des personnages auxquels on s'identifie. Et pour qu'on s'identifie aux personnages, il faut que ce soit des gens qui mettent entre guillemets leur cœur dedans, qui c'est pareil, les bronzés, c'est des gens, leurs personnages, ils l'ont joué pendant 3 ans au théâtre, donc ils les connaissent par cœur, chacun a écrit son propre personnage, chacun a mis de lui dedans, et en fait, à la fin, c'est une vraie bonne comédie, parce que ces personnages existent, en fait.
Ça a du sens, quoi.
Voilà.
C'est pas juste une formule, quoi.
Est-ce que vous avez pas la sensation, comme un peu l'a dit Cyrus au début en expliquant que pour lui, il ressent pas forcément le besoin d'aller au cinéma pour voir un film comique, que justement, il a un peu, il subit un peu ce côté-là de se dire, ok, je fais un film avec l'étiquette comique, donc qui a pour vocation de faire rire des gens. Donc potentiellement, les gens, ils vont pas s'attendre à ce qu'il y ait une belle photo, une belle réal, une belle mise en scène, etc. Donc ce truc-là, soit je le travaille pas, on s'en fout, c'est pas ce qui est demandé, ou au contraire, peut-être comme un Dupieux qui va y attacher pas mal d'importance, bah, ça va passer au second plan parce que les gens se disent « je regarde une comédie, je suis là pour rire ». Donc au final, l'objet cinématographique en tant que tel, il m'intéresse pas vraiment. Ou alors, versus peut-être aux États-Unis où c'est plus travaillé, je sais pas, mais...
Et moi, je pose même une autre question qui... Je vais plus loin que toi, Tom. Je pose même la question, est-ce que...
T'es trop loin, on t'entend plus, Cyrus.
Ouais.
C'est bizarre parce que j'ai rapproché mon micro.
Il comprend même pas les jeux de mots.
1, 2, 1, 2. Ah non.
Je vais aller plus loin que Tom.
Tu t'es fait manger.
Ah, je me suis fait bouffer.
T'es fait manger.
Oh là là.
Le noob.
Oh la honte.
Le noob.
Oh la
le noob.
Honte. Oh là là.
Vas-y, rapproche-toi un peu et pose ta question, s'il te plaît.
Oh, c'est chaud. Oh, Emma. Sensei. Ouais. Sensei.
Coupé,
okay.
Sous le pied, hein.
Ok, respect. Respect. Tu parles coupé, ça, moi.
Non.
Donc.
T'as oublié ta question.
Non, pour aller plus loin que ce que disait Tom. Vous m'entendez toujours ou pas? Ok. Est-ce que même ça dessert pas le film? Genre quand la réal est trop travaillée, etc. machin. Est-ce que pour que ce soit comique, est-ce que une comédie pour que ce soit drôle, est-ce que il faut que, enfin bref, vous avez compris.
Bah non, bah ça dépend ce que tu racontes, quoi. Ça dépend la vision que t'as, ça dépend. Des fois, ça fait partie du truc, quoi.
Je sais que Dupieux, par exemple, son objectif prioritaire, c'est de faire rire. Donc en fait, toute sa mise en scène est au service. Du rire du spectateur, donc en fait il va pas ça va pas rentrer en conflit avec la beauté des plans ou des choses comme ça. Je pense que c'est possible de faire rire avec des beaux plans,
ouais, parce que c'est ça, c'est méga esthétique, mais
okay,
ça,
bah alors,
nourrit, ça nourrit
à ma question et répondez à celle de Tom.
Ça nourrit à fond l'humour, la beauté de certains réels, quoi, de certaines réels.
Alors Tom, du coup
non, en gros c'était de dire, est-ce que finalement le cinéma comique, notamment en France, souffre pas un peu de pas de méconnaissance, mais est-ce qu'il est pas jugé à sa juste valeur, et est-ce qu'au final on va pas retenir juste des vannes versus une vraie proposition filmique et cinématographique derrière?
Le cinéma français en général et la comédie française aussi, de toute façon, à pas les gens. Déjà, le simple fait que les gens disent un film français, c'est fou, quoi, parce que les gens ne disent pas j'ai vu un film américain. Mais sur le film français, c'est une prof à la fac qui avait dit ça, j'avais fait mais ouais, putain, Madame Nakache. Et c'est vrai,
ouais,
c'est vrai que c'est ce simple fait-là, on se dit ah ouais, il y a une dénomination. Enfin, c'est pas hyper populaire dans le cœur des gens, donc il y a un rapport un peu particulier. Et tu sais aussi souvent que les gens, ils ont cet a priori et qu'ils vont pas forcément y aller ou qu'ils vont pas forcément être détendus. Alors qu'en vrai, une fois que tu rentres dans cette grande famille, en tant que spectateur, je parle évidemment, et bah tu te régales, bordel. Regardez les comédies françaises, c'est trop bien. Certaines.
C'est vrai que quand on dit j'ai
mais
vu
on
un...
en manque un peu de nos jours, j'avoue.
C'est vrai que quand on dit j'ai vu un film français, je te recommande, désamorce le fait que ça va pas être ouf, mais ça va être bien, tu vois. Il y a un peu ce truc-là, c'est un peu dommage. Messieurs, je vous propose qu'on commence à parler de la meilleure comédie française.
Yes.
Hugo, est-ce que tu veux ouvrir le bal et nous dire quel est pour toi le meilleur film d'humour français?
Le meilleur
Calmos.
Film d'humour.
Allez, vas-y.
Alors, il y a un film qui s'appelle Calmos, c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'appelle comme ça, qui est exceptionnel, mais qui faiblit un peu vers la fin. Je voulais juste en parler, c'est un film de Bertrand Blier.
D'ailleurs, je me permets de répondre, enfin de rebondir plutôt, pour te dire qu'en termes de SEO, c'est pas ouf. Parce que du coup, quand on tape Calmos sur YouTube, le film vient en premier, et vous, on vous voit pas, quoi.
Ah merde.
Voilà, parce que du coup, les gens, pour vous trouver, ils tapent Calmos bronzé. Je le sais, parce que j'ai tapé Calmos, et le deuxième choix, c'était Calmos bronzé.
Ouais, et en plus, l'émission s'appelle Rigolo, qui est encore un autre délire.
Ouais.
Faut taper Calmos rigolo. Et peut-être qu'il se passe un truc.
Non, mais je pense qu'avec le temps, avec votre succès, au bout d'un moment, ça va percer. Mais...
Ouais, en fait, on va s'approprier le mot Calmos.
Détrôner.
Parce que finalement, Calmos, c'est pas un film si connu que ça. Donc je pense qu'on peut le battre.
Vous pouvez le battre. Les Suricates, à l'époque, le collectif Les Suricates avait battu
les
Suricates, l'animal, en recherche. Moi, avec mon collectif Multiprise, on n'a pas réussi à battre les Multiprises. On s'est attaqué à gros.
Mais en même temps, c'est très demandé. Les
ouais, c'est chaud, ouais. Mais Calmos, vous pouvez y arriver.
Nous, avec Tom, on a fait un duo qui s'appelle Appartement.
On a tout niqué.
On est chaud, vraiment.
Non, on trouvait ça bien Calmos parce que justement, c'est un mot un petit peu suranné qu'on n'utilise plus trop, donc on s'est dit.
Comme le mot suranné d'ailleurs.
Friendly, ouais,
oui.
Ouais.
Le mot suranné.
On pourrait s'appeler suranné.
C'est vrai.
Ouais. Pour un nouveau projet.
Mais c'est vrai qu'il y a une série qui s'appelait Épisode. C'était une galère pour les télécharger. C'est vrai, hein.
Ça me disait un truc, c'était quoi?
Série avec Matt Leblanc par les anciens créateurs de Friends.
Potentiellement la suite.
Série Showtime. Matt Leblanc joue son propre rôle et tout ça, c'est trop bien. Et pour télécharger les épisodes de Épisode, mon gars. Ils ont trouvé la meilleure feinte anti-téléchargement.
C'est vrai que c'est complexe. Du coup, Hugo, quelle est pour toi la meilleure comédie française?
Intéressant.
Eh bien, c'est La Chèvre, bien sûr, de Francis Weber, avec Pierre Richard et Gérard Depardieu.
On est sur du classique de chez classique, du classicos, je dirais même.
On peut le dire. En fait, c'est un film que
très bon
que j'avais en cassette quand j'étais petit, que mes parents avaient enregistré sur une cassette vierge. Et en fait, j'ai regardé ce film... peut-être une fois par an depuis l'âge de 8 ans. Et en fait, c'est un film un petit peu trash en fait, pour un enfant de 8 ans, parce que c'est l'histoire de... Enfin, c'est l'histoire de Monsieur Benz, qui est un chef d'entreprise, qui a une fille très 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 malchanceuse, qui part au Mexique. Et comme elle est très très malchanceuse, elle se fait enlever par un malfrat mexicain. Monsieur Benz envoie un détective pour aller à sa recherche, qui échoue. Et donc il est désespéré, donc il est capable, enfin il va voir des marabouts et tout. Et en fait, il a son psychologue d'entreprise qui a une idée géniale. Il a trouvé dans la boîte un employé qui est très 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 malchanceux aussi, qui est joué par Pierre Richard. Et son idée, c'est que si on envoie ce gars-là au Mexique, eh ben il va se prendre les pieds dans les mêmes tapis, se cogner dans les mêmes portes et évidemment retrouver sa trace. C'est comme ça que Pierre Richard se retrouve au Mexique, accompagné bien sûr de Gérard Depardieu, qui est un vrai détective pour éviter que ça tourne à la catastrophe.
Et donc qui n'y croit pas du tout et que ça saoule de trimballer Pierre Richard. Enfin, Depardieu, ouais, c'est génial, quoi.
Voilà, lui, il est totalement cartésien, il croit pas du tout à ce truc-là. Donc en fait, c'est l'histoire de deux mecs qui sillonnent tous les bordels mexicains pendant une heure et demie. Et en fait, quand t'as 8 ans, tu te rends pas forcément compte de ça, mais pourtant, c'est génial même quand t'as 8 ans. C'est-à-dire que c'est un film totalement... tout public, bon, même si tu comprends rien à ce qui se passe, c'est instinctif, quoi. Et il y a ce tandem de Pardieu et Richard, je pense qu'on n'a jamais fait aussi bien. Enfin, il y a eu de Funès Bourville.
Charlie Lulu, on en a parlé tout à l'heure.
Ouais, il y a eu Charlie Lulu. Il y a vraiment une alchimie dans ce tandem qui est incroyable. D'ailleurs, ils ont fait 3 films ensemble. Et Francis Weber, il a fait tous ses films d'après sur ce modèle-là, du tandem antagoniste. Après, il a fait Le Dîner de Cons. Il a fait. Je veux dire, c'est son truc, quoi. Il a inventé.
Sa figure de François Pignon, qui est un personnage très récurrent de ses films.
Qui existait déjà avant, mais pas. Enfin, s'il y avait eu L'Emmerdeur qu'il avait écrit, c'était déjà Pignon, c'était Jacques Brel et Lino Ventura. Et là, il a vraiment trouvé le bon attelage, quoi.
D'ailleurs, un des nombreux bons épisodes de votre chaîne est sur comment Depardieu est devenu un emmerdeur, où vous retracez un petit peu toute cette historique de la figure de l'emmerdeur.
Voilà, dans Tais-toi, qui est un autre film de Francis Weber, dans lequel Depardieu, qui a été l'emmerdé pendant quasiment toute sa carrière, devient l'emmerdeur de Jean Reno. La mise en scène de Francis Weber est géniale. Parce que, en fait, c'est plutôt l'écriture. À chaque séquence, à la fin de chaque séquence, la séquence n'est pas encore terminée que la séquence d'après démarre, en fait. C'est-à-dire que tu t'arrêtes jamais, c'est une sorte de rouleau compresseur. Tu viens de rire. Et donc là, il y a une espèce de dialogue qui paraît anodin. Et en fait, à ce moment-là, Pierre Richard se fait enlever par un gorille, quoi. Et en fait, tu pars sur la séquence d'après. Et en fait, t'arrives à la fin du film très très vite. Et dans Le Dîner de Cons, il y a ça aussi, c'est que ça ne s'arrête jamais, quoi. Puis il y a le côté aussi film d'aventure, film au Mexique, qui te fait voyager, qu'on a peut-être un peu perdu dans la comédie française actuelle.
C'est quelle année La Chèvre, à peu près, pour les gens qui connaissent pas
Je crois que c'est 81.
Ok. Donc, ouais. Et est-ce que du coup, je ne l'ai pas vu, du coup, j'avais posé des questions. Est-ce qu'il y a cette sensation un peu liberté, années 80 et tout qui...
Ah, bah totalement. Genre, Depardieu se tape des putes pendant son enquête, quoi.
Nickel.
Et, voilà,
effectivement, c'est un.
C'est pas forcément un argument.
un bon exemple de liberté, finalement. C'est...
Ouais, non, mais ouais, il y a vraiment ce côté 80s un peu suranné, justement.
Enfin, liberté pour qui, Tom? Je pose les questions qui fâchent, moi.
Je sais. Excuse-moi, vous n'êtes pas maire de Vitriol City
Regardez ma plume. Vous remarquez?
Elle est imbibée de vitriol. Complètement trempée.
C'est du vitriol.
Ok, La Chèvre.
Vous ai-je convaincu?
Ouais, c'est un pas mal, bon... Je l'ai pas vu, donc c'est difficile. Mais effectivement, la manière dont c'est décrit, les points forts mis en avant, je pense qu'on a un bon challenger. Aurèle, pour toi, quel est le meilleur film? Je précise pour nos auditeurs qu'Aurélien a un t-shirt Didier. Est-ce que c'est un indice? Est-ce qu'il
Didier
va semer
Alain
le Chabat.
Trouble? J'ai enlevé mon pull, ouais, pour semer le trouble. Quelle est pour moi la meilleure comédie française? Ouais. Moi je vais partir sur La Cité de la Peur.
Ok.
La Cité de la Peur, le film de Les Nuls.
Un gros morceau.
C'est ça, un très gros morceau.
Pourquoi ? Pour toi, c'est la meilleure comédie française ?
Parce que c'est extrêmement drôle, pour commencer. Ensuite, je dirais parce que c'est la meilleure comédie française.
Ouais.
En deux.
Ok, de bons arguments.
En trois, non, mais après, il y a ce côté... Bah, on sait que déjà que plein de gens adorent ce film, donc il a voilà. Donc là, je suis pas en train d'argumenter, mais
non,
c'est que c'est
tu gagnes du temps.
J'invente rien. J'avais peur qu'on, qu'on dise, j'avais même peur qu'on dise tout ça. Je t'avais
ouais,
dit,
tu m'avais dit.
T'es sûr que faut faire gaffe à ce que tout le monde dise pas la cité de la peur. Au final, a priori,
tu es solo.
Je suis solo. Spoil. Non, parce que déjà, bah, moi, j'ai un certain attachement parce que comme toi, je l'ai vu gamin beaucoup. Et quand tu le revois plus tard, bah, t'as la chance de, enfin, le bonheur de découvrir que bah, ça marche toujours quand t'es grand. Au-delà de la nostalgie, tu vois un autre film.
Ouais, tu redécouvres des gags. Il y en a
bah,
tellement.
Ouais, tu redécouvres des gags
des
et puis tu rigoles d'autres choses. Parce que c'est vrai que moi, quand j'étais petit, moi j'étais fan des nuls, même sur Canal. Mais en vrai, j'étais très petit et je comprenais rien. Mais je voyais bien, j'aimais l'état d'esprit, j'aimais le. T'es petit, tu comprends pas, pas comme tu disais, tu vois, tu kiffes quand même, tu vois, t'es dedans, t'es embarqué dans le truc et tout. Mais c'est vrai que les trucs qui me faisaient vraiment rire, c'est quand Chaba il court sur le comment ça se dit
avec les mimes
quand il court
sur la
croisette
sur la croisette et qu'il se prend un mec et que le mec tombe sur la plage et explose ça moi c'était ma blague où Simon t'as un bout de pomme de terre sur la joue et contre champ il a un énorme bout de patate qu'il fait tomber avec un sound design incroyable. Bon ça moi c'est petit c'était dans ma tête ça explosait. Je trouvais c'était la révolution, je me disais mais c'est le meilleur truc du monde. Quand tu le revois plus tard, il y a mille fois plus de trucs qui te parlent parce que tu te rends compte que c'est une vraie histoire, que c'est méga bien écrit, que c'est des vrais personnages et que bah plus le film avance, plus tu kiffes en fait sur c'est ça moi je l'ai revu il y a pas longtemps parce qu'il est même ressorti au cinéma. Ce qui est fou dans le film c'est que déjà petit, je comprenais pas l'histoire en vrai parce que l'histoire elle est quand même
elle est un peu tarabiscotée je dirais.
Pour
même.
Ceux qui ont pas vu, c'est quand même là il faut que je me concentre pour le pitcher. C'est une attachée de presse qui s'occupe d'un tout petit film d'horreur qui marche pas. Sauf que il y a un mec, la projectionniste du film qui se fait tuer. Du coup, ça fait un peu parler.
La même façon que le perso meurt dans le film.
Voilà.
Qui reprend
du coup, ils se disent ah putain, on va utiliser ce buzz et on va descendre sur la croisette pendant le festival de Cannes, parce que pour essayer de faire continuer de parler de ce film-là. Du coup, pour faire genre c'est chaud et tout, on va appeler on va faire venir l'acteur du film qui est pas du tout acteur.
Mais spoil pas. Hein.
Bah, t'as jamais vu La Cité de la Peur.
Waouh.
T'as rien vu en fait.
Non mais t'as commencé en disant pour les gens qui ont pas vu
déjà. Ok. Hein bon voilà, c'est Chantal Lobby l'attaché de presse, tu situes.
Yes.
L'acteur du film complètement éclaté, c'est Dominique Farrugia,
yes.
Donc qui est un grand enfant, on va dire. Voilà. Même si j'ai pas cette expression. elle dit on va descendre ensemble sur la croisette, on va faire venir un garde du corps parce que c'est chaud et tout, et pour faire genre c'est le danger et tout, c'est Alain Chabat le gars.
C'est
au début du film.
Alain Chabat.
Au début du film, le trio ne se connaît pas, donc t'as un vrai contexte intéressant. Et ils descendent ensemble à la croisette. L'objectif d'elle, c'est de faire marcher. Je sais que le film marche. Donc il y a un deuxième projectionniste qui se fait buter. Elle est trop contente. Je te spoil un peu, mais ça, c'est le début.
Ça reste le début du film.
Et Chaba, lui,
c'est
de base,
c'est le dernier spoil. Hein.
Chaba, de base, c'est un énorme queutard. Et lui, son but, c'est de baiser les meufs qu'il protège. Donc là, il veut se taper Chantal Lobby. Sauf qu'il se retrouve à traîner juste avec Farrugia dans les pattes, alors qu'il le saoule. Farrugia vomit quand il est content, pour te donner un peu l'ordre de...
Non mais en fait, je crois que j'ai vu le début ou un truc comme ça. Enfin, y a
mais c'est comme si c'était de la merde, t'as arrêté quoi.
Et bah, sur t'as place... forcément vu des extraits, c'est pas possible de
et sur place, tu as le commissaire en charge de l'enquête, qui est joué par Gérard Darmon, commissaire Bialès, qui du coup, effectivement, je viens de tilter ça il y a pas longtemps, joue un peu le quatrième nul, car il faut savoir que les nuls ont eu le malheur de perdre... C'était quatre à la base, il y a Bruno Carrette est décédé au début des années 90, si je dis pas de bêtises. Et du coup, t'as ce schéma-là. Donc, t'as l'enquêteur, l'attaché de presse, l'acteur star, mais complètement con. Le garde du corps qui veut se taper Chantal Lobby, t'as tout ce schéma là, mais au milieu de ça, c'est que des gags potaches tout le temps, que des gags visuels, que du n'importe quoi, que du jeu de langage, du truc et tout. Ah, tout va, mais avec une vraie histoire qui avance. Et quand je l'ai revu, tu l'as bien en tête toi le film ?
Ouais, bah je l'ai pas mal revu parce qu'on a fait une vidéo dessus et donc je connais.
J'étais fou de. Spoil pas, mais de voir que.
Ah, il va spoiler. Ça monte, une phrase qu'on dit avant de spoiler.
Et
ça.
Avant la grande scène finale, t'as une scène qui réunit enfin tous les personnages qui ont fait un peu toutes leurs histoires de leur côté. La fameuse nuit où Chaba il est bourré, où Lobby elle est avec Bialès. Ils se retrouvent le matin au petit-déj et t'as une longue scène de comédie juste entre eux trois. Et c'est juste les nuls à la base, tu vois. Et c'est que de la comédie, que des persos, des trucs. Et cette scène est incroyable. Ça dure, je sais pas combien de temps, 10 minutes, un quart d'heure. C'est à mourir de rire, c'est trop bien, tout marche trop bien. J'ai revu ça, j'ai fait, mais putain de sa mère.
C'est
incroyable ce film. Et c'est un vrai film. C'est pas eux qui l'ont réalisé, c'est Alain Berberian, qui encore une fois était leur réal de télé historique. Donc encore une fois, c'est une équipe qui est montée. tous les comédiens français qui jouent dedans, c'est des mecs qu'ils ont rencontrés sur les nuls de l'émission juste avant. Qui, à chaque fois, il y avait un invité, c'était comme le SNL, tu sais. Donc, du coup, il y a un espèce de truc cohérent là-dedans. Ça marche trop. C'est pas que des blagues. Il y a des vrais plans. Ça prend le temps. T'as une vraie BO.
Ouais, c'est
un vrai
film de cinéma, pour le coup.
Mais
on en parlait.
C'est ultra potache et ultra con. Et c'est réussi à faire un truc pareil. C'est fou, quoi. Et ça a révolutionné notre monde à l'époque. J'adorais Les Trois Frères aussi. Parce que je sais que Sirius en fan et Tim Les Inconnus.
Ouais, alors c'est marrant.
Et je compare pas parce qu'à l'époque,
c'est marrant,
ça,
Les Trois Frères, c'est un des films. Enfin, au début, je pensais aux Trois Frères pour mon choix.
Ok, donc c'est pas ça, tu spoil un peu, mais c'est. T'as, toi aussi, tu spoil, y a pas que moi. Quoi. Donc voilà, pour moi, là, c'est de la peur. C'est... Et après, t'as 1000 répliques cultes. Ouais, après, forcément, les gens se le sont vraiment accaparés.
C'est très présent dans l'imaginaire
les
collectif.
Les machins, les hommages et tout qu'on a bien vu quand notre génération est devenue.
Genre, c'est pas faux, par exemple.
Quand notre génération est devenue faiseuse de choses, comme avec Bref et tout ça, on s'est vraiment. C'est les gens qui étaient fans sont devenus ceux qui faisaient des trucs. On s'est bien rendu compte de l'impact qu'avait eu ce truc-là et ça, du coup, ça continue, ça perdure. Et c'est vrai que quand tu le vois au cinéma avec des. J'ai vu au cinéma avec des jeunes qui ne savaient peut-être même pas que c'était un film qui ressortait, tu sais. Et tu les entendais rire à des vannes pour la première fois.
C'est
magique,
très
quoi.
Moderne dans l'humour et tout.
Ouais, ça a super bien vieilli. Il y a quelques petites refs de l'époque, genre parodie de Basic Instinct et tout, c'est un peu technique pour les gens.
Ouais.
Mais c'est bien là pas beaucoup quoi.
Mais c'est pas grave si tu l'as pas. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est ce qui est intéressant dans les films, je trouve, même de Shabba au sens large. Moi, j'ai.
Shabbat.
Spoiler aussi, j'ai choisi un film dans lequel Shabba est impliqué. Et
Shabbat.
Et c'est vrai que là où il est fort, je trouve, c'est qu'il y a énormément de références dans ses films, mais on va pas la pointer du doigt et en faire des tonnes autour. C'est hop, elle se passe, parfois en arrière-plan ou pas. Tu l'as très bien, t'es embarqué, tu l'as pas, t'as pas le temps de te poser la question qu'il y en a déjà une autre qui arrive.
Tu t'en mets 700 quoi.
Et ouais,
tu revois au bout de la cinquième fois, tu percutes des vannes. Là, j'ai percuté des vannes, là, c'était de la peur la dernière fois que je l'ai vu. Je fais, mais qu'est-ce que c'est
des
ce
trucs dans le fond, par exemple, dans Red Is Dead, c'est le film dans lequel. Ils sont censés jouer dans Red Is Dead. Au début, en fait, il y a des cactus dans quasiment tous les plans. Et en fait, je m'étais jamais rendu compte de ça. C'est même pas drôle, mais avec le fait d'avoir eu l'idée de faire ça, et j'avais jamais vu ça.
Mais il y a un côté,
mais j'ai l'impression que c'est très Zaz ça.
Ouais, bah oui, ouais, c'est très fan
des BD. Enfin, c'est des cases quoi. Enfin, c'est des cases où il y a des trucs à tous les niveaux. Et c'est vrai que La Cité de la Peur, pour le coup, moi j'ai failli le choisir. Je pense que c'est ma comédie préférée, je pense, mais je l'ai pas mis comme la meilleure. J'expliquerai pourquoi. Mais
t'as mis Astérix Obélix,
je trouve que. Peut-être.
Je pense.
Franchement, il a dit il y a Shabbat dedans et tout. Enfin,
il a fait Santa Annecy aussi, il a fait Didier, il y en a eu plein, Gazon Maudit,
ouais,
il y en a eu plein.
Clopate,
et du coup, moi, ce que je trouve fort dans La Cité de la Peur, c'est que il y a peu de choses qui marchent pas. Moi, je n'ai pas de souvenir d'une scène à me dire, putain, c'est vrai que celle-là, tu sais, tu la vois passer, tu dis, allez, je sais que celle-là, elle est pas ouf, mais j'aime ce film, du coup, je ferme les yeux dessus. J'ai pas cette sensation-là. Et le rythme est incroyable. Il n'y a pas de temps mort, quoi.
Ah, c'est marrant, je pensais que c'était un film. C'est de la musique.
Yes. Nickel. Mais ok, belle ode à La Cité de la Peur. Cyrus,
ouais.
Quelle est pour toi la meilleure comédie française?
Ok, alors moi c'était.
À bras ouverts.
Marie à
tout prix.
Je
voulais en parler. Yes.
C'est,
nickel.
C'est pas français.
Ah merde, ok. Bon, alors moi, c'est Wasabi.
C'est vrai?
Non.
Ah, ça aurait été fou.
Je l'ai pas vu, mais
non, mais
le droit.
Qu'on en parle.
Michel Muller, on en parle pas assez. Hein, c'est...
Franchement. Ce film,
j'en ai un bon souvenir, Wasabi.
Moi, je l'ai vu à sa sortie. Non, en vrai.
Est-ce qu'on peut essayer de deviner ce que tu vas dire?
Ah, vas-y.
Parce que je crois que t'aimes. Les Visiteurs? La tombe par l'Ins Infernale?
Non.
Attends, j'ai une fiche.
Non, alors attends, mais tu sais quoi?
Radio Star,
mais quel indice?
Les Trois Frères, OSS?
Non, allez,
les Bogos.
Ça suffit? Ça suffit.
On n'a pas parlé de Brice de Nice.
Ouais, pourtant incroyable. Non, mais alors, en fait, j'avais une hésitation. Avant de venir, entre Le Téléphone Sonne Toujours Deux Fois, est-ce que vous voyez ce film?
Nope.
Ouais.
Ah, il y a le technicien.
Ah, il est là, c'est le technicien.
Est-ce que tu le
c'est un peu la Cité de la Peur des Inconnus, qui est
okay.
C'est une parodie de films noirs.
Noir, ouais, exactement.
Par les Inconnus. Moi, je me souviens plus trop du.
En gros, c'était un détective qui s'appelle Mark Albishan. En vrai, son nom, c'est Marcel Bichon, mais tu vois, genre, il replace tout le temps les lettres pour que ça fasse Mark Albishan. Et il est dans une enquête. Donc, c'est les Inconnus. Il y a aussi Smain.
Alors, je crois qu'il faisait partie un peu des Inconnus au début.
Ouais,
il me semble qu'ils étaient 5. Et puis, après,
les mecs étaient chez le théâtre de Bouvard, c'est ça?
De quoi?
Ils étaient dans le théâtre de Bouvard.
Ouais, c'est ça.
Ils étaient toute une bande.
Et je crois qu'il y a le cinquième aussi dans le film.
Qui ressemble un peu une sorte de Depardieu, tu vois.
Ouais,
un peu stock.
Il a une moustache, non?
Ouais, c'est une moustache, un peu blond, stock, tu vois. Et donc, c'est un film d'enquête autour de quelqu'un qui tue des gens au téléphone. Genre, le téléphone sonne deux fois et ensuite la personne crève, tu vois. Et donc, ils font une enquête de ouf à travers les téléphones dans Paris et
tu
tout.
Tu spoil beaucoup ou pas là?
Non.
Ok.
Non, non. Et franchement, ce film démonte. Enfin, moi.
Et là, tu spoil?
Non.
Ok, c'était pas sûr.
Et enfin, moi, j'ai adoré.
Mais c'est dommage que t'aies vu une seule comédie française dans ta vie.
Non, non, trop pas, j'en ai vu plein d'autres.
Ah bon, ok.
Donc, mais c'est pas celui que j'ai choisi.
Mais voilà, c'était ton numéro 2?
Ah bon? Je pense mon numéro 2.
Bon, bah, c'est Mission Cléopâtre.
Mon numéro 1.
Pamela Rose.
Je pense que c'est OSS 117.
Ah, je l'avais cité.
Lequel?
J'ai cité tous les films en même temps.
Pour ce que ça a créé, le 1.
Ok.
Parce que, bon, déjà, je trouve ça, bon, évidemment, je trouve ça drôle. Je me suis bien marré. Je trouve que l'histoire est chambée. Je trouve qu'il y a vraiment un truc. Il y a des trucs qui se. Voilà, c'est fort.
Ah, c'est trop fort.
Mais au-delà de ça, j'ai aimé le fait que ça devienne culte, tu vois. J'ai aimé le fait de créer un héros slash anti-héros français récent, tu vois, qui a une emprise sur la pop culture, etc.
Qui n'est pas juste Louis de Funès, enfin, d'avoir une figure à laquelle... Okay.
Et je trouve qu'il représente hyper bien... en tout cas, j'aime que cette personne représente la France, entre guillemets. Tu vois, avec son petit style, son...
Avec ses bons et ses mauvais côtés, quoi, du
non,
coup.
Non, mais
finalement.
Voilà, tu vois. Genre, je trouve que c'est...
Un peu raciste.
Ah bon, pourquoi?
Bon, ça fait partie de son personnage.
Ah, oui, c'est vrai.
OSS.
Ouais, ouais, ok, mais moi, j'étais plus le côté, genre... tu sais, genre, j'aime les panoramas,
ouais,
tu
bien
vois,
sûr.
Genre, machin, tu vois, un peu bête, mais qui arrive quand même, etc. Enfin, bref, voilà. Donc le côté culte, le côté nouvel héros, le côté porté par un gars, j'avoue, j'aime bien les héros, j'aime bien quand ça tourne autour d'une personne qui arrive à faire un truc de fort.
Ce qui est génial avec Dujardin, c'est vrai que en fait,
merci
maintenant quand je vois,
mec est à court d'arguments,
quand je vois Dujardin, je peux pas m'empêcher de voir OSS 117 et je trouve que c'est hyper fort d'avoir un personnage tellement fort que l'acteur qui joue le personnage devient ce personnage en fait.
C'est clair.
Et quand tu vois The Artist, après moi je peux pas m'empêcher de voir je vois OSS 117.
Ouais,
c'est vrai que c'est parfait, tout est.
Mais moi j'ai ça avec Jim Carrey par exemple et Ace Ventura, tu vois. Genre Jim Carrey.
J'aime
maintenant pour moi c'est Ace Ventura.
Maintenant, parce que, maintenant mais parce ou que, depuis 25 ans
tu Non, fais. Depuis 25 ans. C'est-à-dire que j'ai tellement kiffé Ace Ventura, et pour moi, il était tellement genre taillé pour Jim Carrey, que bah, voilà, c'est Ace Ventura en fait, qui fait un autre film.
C'est le film où il est le plus à fond et où il est le plus...
Et qui est le plus lui-même, en fait.
Et il a co-écrit, non? Je crois. Comme
je sais
beaucoup
pas,
de gens, au début, de toute façon, tu t'investissais dans l'écriture pour faire des bons films aux States, pour, parce que voilà, bon bref. Mais je crois que c'est... Et tout comme Dujardin n'a pas écrit OSS, mais ça a été écrit pour lui spécifiquement.
Ouais.
L'auteur Jean-François Alain, qui est un ancien auteur des Guignols et tout ça, qui est fou de l'époque, de début des années 90, l'époque méga cul des Guignols et tout. Lui, à l'époque, ce qu'il faisait, c'est qu'il écrivait en ayant en tête de Charles Pasqua, des mecs de Jacques Chirac, tout ça, qui, quand il le faisait déjà au Guignol, il écrivait avec la voix des gars dans la tête. Et Dujardin, il a écrit tout le scénar en s'imaginant Dujardin qui faisait le truc. Et ça se voit, c'est parfait,
c'est
magique,
c'est
une sur mesure de ouf, quoi.
Clairement. Et du coup, c'est marrant, Sirius, cette petite ironie de l'histoire où, voilà, pour les gens qui nous écoutent avec Sirius, on a pas mal de conflits culturels voilà, qui viennent régulièrement. Il y en a un sur les nuls et les inconnus.
C'est notre premier conflit
qui a été assez dur à des moments où Sirius, c'est nul de choisir entre les deux. Mais si,
enfin,
voilà,
c'est
y a quand même des
de
écoles.
Choisir entre les deux, peut-être.
Yeah, si, là.
Non, attends, qui est pour qui je sais pas
Sirius est team inconnu, je suis team nul.
Ouais.
Et en fait.
C'est-à-dire que tu t'aimes pas les nuls, ou c'est juste que les inconnus, c'est tellement fort que...
Non, les inconnus, je trouve ça super fort et j'adore, et vraiment...
Surtout maintenant, je trouve leur carrière aux inconnus est vachement bien depuis 15 ans, les choix de films de...
je mate tous leurs sketchs, enfin, je connais tous leurs sketchs, etc., tu vois, enfin, voilà. Et les nuls, le peu de trucs que j'ai vu, ça m'a pas trop parlé, tu vois. Et Tom, c'est pareil.
Donc, pas vu la Cité de la Peur, quand même, ce qui quand même... Et un élément important pour prendre sa décision sur quel team je suis, quoi.
Mais quand j'en parle avec et Tom, c'est pareil, t'es d'accord?
Oui, moi j'ai le même avis sur dans l'autre
voilà,
sens.
Voilà, et tu connais très mal les inconnus aussi.
Bah, j'ai vu les films, j'ai bien aimé le Paris, j'ai pas aimé les Trois Frères, et les sketchs me font pas rire plus que ça, quoi.
Voilà. Et quand on en parle avec des gens qui connaissent vraiment très bien les deux, en fait, quand tu connais très bien les deux, apparemment, genre, c'est impossible de choisir, tu vois.
Et puis surtout, c'est complètement con, en fait.
Oui, bien sûr.
Et
c'est un truc de
collégien. Calmos. On aime bien. Enfin, tu vois, ça te...
Moi aussi, je me positionne parce que c'est des restes de... J'étais au collège, moi.
Ouais, toi, tu connais les deux très très bien?
Je connais plus les nuls. Mais oui, je connais très très bien aussi les inconnus. Bah, à l'époque, c'était les deux trucs chambés, quoi. Mais c'était la guerre à l'époque, fallait se positionner. Moi, j'avais dû choisir les nuls et j'avais dû choisir Nintendo. C'était la guerre Nintendo-Sega. et la guerre, les nuls, les inconnus. Il fallait se positionner.
C'est comme les Stones et les Beatles, quoi. Tu vois. C'est... Mais du coup, ce que je voulais dire, ce qui est petite ironie, du coup, je suis un peu content de ce choix parce que c'est réalisé par Michel Hazanavicius, OSS, qui est un élève de l'école des nuls, qui était même présent dans l'émission des nuls, qui écrivait, je crois, pour eux. C'est le mec avec le blouson dans tous les petits trucs.
Et bah, c'est marrant que tu dis ça. Parce ça me fait plaisir. Le gros défaut de OSS 77, c'est la réalisation. Il faut que c'est vraiment réalisé comme les pieds, quoi.
C'est vrai, le mec a pas eu d'Oscar en plus dans sa vie derrière et tout, c'est un peu dommage.
Et d'ailleurs, il a aussi réalisé un autre film que moi j'ai.
La classe américaine. Ouais, bah moi aussi j'ai voulu le mettre.
Meilleure comédie française, je me tâte. Mais bon,
je pensais que Tom allait le.
La classe américaine, c'est un film de détournement de film américain.
C'est trop niché pour moi.
Vraiment français.
Un peu concept.
Moi, c'est un des, mais pour moi, c'est un des meilleurs.
Oui, moi aussi.
Enfin, rien que pour ce passage Julien Lepers.
Oui, qui est incroyable, bien sûr.
Incroyable.
Mais tout est
fou. Vous voyez ce que c'est, mais si vous ne voyez pas ce que c'est, le grand détournement, la classe américaine, choper ça, c'est une folie.
C'est génial. C'est génial. Et du coup, ouais, moi, ça, j'ai hésité aussi à le choisir parce que je pense que c'est l'un des films qui me fait le plus rire au sens premier du terme, vraiment mesclaffé. Mais je trouve qu'effectivement, c'est un peu niche et pas forcément le plus accessible. Oui, mesclaffé.
Et puis, c'est pas sorti au cinéma, tout ça. Non. Tout ça, quoi.
Mais, et après, le voir de bout en bout, c'est pas forcément. Je trouve que c'est plus drôle par petits extraits. Tu te fais un petit bout de Lepers, un petit bout de Burt Lancaster. Sur la durée, je trouve que ça fait bien un peu de rythme.
Et l'histoire, pour le coup, c'est aussi un peu plus dur. Ouais. Enfin, c'est un peu. Ouais. Voilà, comme ça, c'est un mélange de plein de films. Ils ont en refait un, c'est un peu plus difficile. Mais c'est un excellent film.
Mec, dis-moi que t'as choisi Mission Cléopâtre, s'il te plaît.
Eh bien, écoute, Cyrus, tu vas être un peu déçu.
Oh non!
Parce que j'ai choisi.
Parce que je risque de changer mon vote si t'as pas choisi.
Attends, il y a Shabba dedans?
J'ai choisi Mission Cléopâtre.
Ah yes!
Je me disais merde, ça peut être quoi d'autre?
Yes.
J'ai choisi Mission Cléopâtre, je l'ai rematé du coup lundi pour en être sûr et j'en suis certain. J'ai choisi Mission Cléopâtre parce que pour moi, c'est un film aqueduc.
Ah,
c'est-à-dire
il a une théorie.
Que c'est un film qui fait le pont entre tout. Je trouve que c'est un film qui fait le pont entre les générations. Parce qu'on a quand même en tête d'affiche Clavier et Depardieu qui étaient au top dans les années 90-80, qui ont fait masse de succès et tout. Et on les met avec un Jamel Debbouze qui est au top de sa forme à ce moment-là, qui était encore aux prémices de son personnage. Maintenant, on le connaît bien, mais à l'époque, c'était encore un truc hyper frais et il le maîtrise hyper bien dans ce film. Dans le film, il y a Pierre Tchernia et la BO du film, il y a Snoop Dogg dedans. Enfin, je trouve qu'il y a des ponts entre vraiment toutes les générations et ça fonctionne hyper bien. Je trouve qu'il y a un pont entre tous les humours. Il y a un peu comme La Cité de la Peur, où je trouve que c'est des masterclass des typologies de l'humour où il y a tout ce qu'on connaît, qui est du jeu de mots, qui est de l'absurde, qui est de la comique de situation, qu'il y ait du quiproquo, qu'il y ait du gag visuel. Je trouve que c'est hyper dense
et répétition
c'est une
aussi.
Énorme réussite de la répétition. Ah ouais. Il y a beaucoup de choses.
Il y a répétition aussi.
C'est un film impossible à faire, Mission Cléopâtre. Shabba, il est très fort pour faire des films impossibles à faire.
Il est trop fort,
même si Le Marsupilami, c'est beaucoup moins populaire, c'est un film impossible à faire. Ouais. C'est deux différents niveaux de lecture,
une prise
pour les enfants, pour les grands, en même temps une adaptation d'une œuvre culte sans que derrière
la dénaturer. En la revisitant.
Insulté, tu vois. Parce que là, tu dis, ça fait un pont entre les nuls, enfin la génération Canal, la génération Splendide ou Depardieu, tout ça, et Astérix.
Ouais,
tu
bien sûr.
Astérix, ça fait aussi le pont avec un truc méga culte de il y a 1000 ans.
Et
quoi.
D'ailleurs, Snoop Dogg a dit qu'il avait accepté de faire le son parce que ses enfants étaient fans d'Astérix.
Stylé.
Bah, je sais pas si c'est
énorme.
Ça, c'est improbable.
C'est vrai que ça réunit tout ce film.
Oui, il y a du comique de répétition.
D'accord.
Absolument. Je trouve également que ça fait, comme tu l'as dit pour La Chèvre, c'est un film d'aventure. L'air de rien, et c'est cool d'avoir au service de l'humour, on en parlait tout à l'heure, un grand spectacle, et visuellement et tout, enfin il y a des effets spéciaux, c'est assez majestueux, enfin c'est classe quoi, tu vois, c'est un film, tu le mates, tu te dis ok, je vois un vrai film de cinéma.
Et tu vois où le budget est allé quoi, tu te dis
là j'en ai eu pour mon argent,
ouais.
Il y a énormément de références, je l'ai revu, et c'est un peu le même effet que la Cité de la Peur, pardon, où je pense qu'à chaque relecture, il y a des références que tu vois que t'as pas vu au début, genre là, il y avait, notamment, j'avais pas tilté, mais il y a une référence sur le bruit ou l'odeur de Chirac, à un moment, il y a Jamel qui lance cette phase-là, et je me suis dit, en étant adulte, tu vois, tu redécouvres des trucs qui sont chamés. Il y a de la pop culture à tout va, et la référence à Jurassic Park, à Matrix, à Ouais Charlie.
Ah ouais,
Il y en a vraiment partout. À Claude François, à la Joconde, au Bronzé, à Forrest Gump. Enfin, vraiment, je trouve qu'il y a tout. Ça déborde de vannes, mais sans jamais que ce soit au détriment de la trame principale. L'histoire est claire. C'est le défi de Numéro Bis, du coup, qui est choisi par Cléopâtre pour construire un palais dinguissime pour Jules César, pour montrer que la civilisation égyptienne n'a rien envie à la civilisation romaine et qu'il y a 100 jours pour le faire. Et c'est, l'objectif est hyper clair au début du film. C'est, tu t'y rattaches tout le temps et toutes les péripéties qu'il y a autour, bah, ça suit bien ça et c'est pas gratos, quoi. Y a une chanson au milieu qui est cool et qui sert à la trame, qui est I Feel Good, qui est repris et pendant que les Égyptiens construisent et tout, avec des vannes dedans. Enfin, je trouve que c'est un sans faute. Ça touche tout le monde.
Putain, il a tellement d'arguments aussi. Voilà. Il a préparé son jeu depuis deux jours.
Voilà, je trouve que ça coche énormément de cases et que tous les types d'humour sont là et que voilà, c'est un carton. Voilà.
T'as oublié de dire qu'il y avait Dieudonné dedans.
Oui, il y a Dieudonné qui est encore. Voilà, je voulais dire, c'est un argument aussi d'ailleurs. Une des dernières bonnes apparitions de Dieudonné. Il y a beaucoup de comédies qu'on n'a pas citées. Je voulais au moins les. On va faire l'échelle du ouais, ce qu'on fait régulièrement. Je vais donner des noms de comédies. Et plus vous trouvez qu'elle est stylée et qu'on aurait pu la citer, vous dites un ouais, appuyé fort. Et si jamais c'est pas ouf, vous dites rien. Ça vous va? On fait comme ça?
Ouais, ouais.
Rabbi Jacob.
Ouais.
Ouais.
Les Tuches.
Ouais.
Le Dîner de Con.
Ouais.
Oui, il y a que moi qui.
Pamela Rose.
Ça va trop vite.
Ouais. Ouais. Ouais.
Camping.
Oui.
Oui.
Okay. Moi je dis oui. Mais alors moi j'ai un biais parce que je suis vraiment fan de Franck Dubosc.
Okay.
Je trouve que il tient vraiment très 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 bien son personnage. C'est comme Louis de Funès entre guillemets, c'est-à-dire que Louis de Funès, il a trouvé son personnage, il excelle dans ce truc-là, il a inventé son personnage et c'est le meilleur pour le faire. Et Dubosc, c'est pareil, il a inventé ce personnage d'espèce de beauf séducteur et tout. Et il le trimballe dans tous les films et c'est plus ou moins bien.
C'est
et pour moi, Camping, il porte à lui seul sur ses épaules Camping. Et après, il y a les suites qui sont un peu moins bien. Mais
moi, j'ai pas vu la suite de le 1, c'est cool. Hein.
Mmh. Ouais.
Après, moi, il y a plein de trucs. Les gens, ils disent, voilà, Alibi.com, Nicky Larson, je trouve ça cool. C'est pas incroyable, mais il y a plein de trucs bien dedans. Camping, c'est bien. Les Tuches. Vous avez vu en vrai les Tuches?
Ah, moi, j'ai vu les
non.
Tuches.
C'est cool, les Tuches.
Pas trop plus.
J'allais le citer.
Bah, je sais pas, il y a plein de trucs hyper barrés dedans.
J'aime bien Jean-Paul Rouve dedans.
Ah, bah, Barouf, c'est Barouf. Hein,
mais du coup, excusez-moi, juste, personne n'a rebondi sur fan de Franck Dubosc. On laisse ça passer.
Ouais, on va faire ce qu'on veut, ok.
Il est fou, lui. Il est fou.
Non, mais envoyez vos objections. Moi, j'y réponds.
On a parlé vite fait des films d'Eric et Ramzy, aussi Double Zéro ou Seul Tout.
Seul Tout, ouais. Double Seul Zéro, tout, ouais. C'est ouais. Un peu de chaud quand même.
Tiens, un sujet aussi qui peut un petit peu diviser les films de Michael Youn.
Ah, moi j'aime bien. Fatal Bazooka.
Fatal, qui, je l'ai pas vu, mais tout le monde me dit que c'est un bon film.
Ah, ouais, Fatal, c'est un bon
alors,
film.
Fatal, moi je trouve qu'il y a 5 minutes qui sont exceptionnelles dans Fatal. C'est la scène des Energy Music Awards de la musique. Et en fait, c'est une succession de parodies, mais vraiment génial. C'est ce qu'il faisait dans le Morning Glass très bien. Et
très
je trouve
fort,
qu'il c'est vraiment le plus fort pour faire ça. Après, le reste du film, c'est un peu diffus, ça part dans tous les sens.
Il y a des bons trucs,
mais ouais, moi ça m'a un peu laissé sur le bas-côté. Mais cette séquence-là, avec. Je sais qu'il y a une sorte de parodie des Enfoirés, en fait, ils s'appellent Les Enculés. Et leur chanson, c'est Pédophile d'ici. Et donc, il y a une chanson.
Pédophile d'ici, très bon jeu.
Ouais, il y a très bon truc ouais, dans ce film-là.
La vie est un long fleuve tranquille.
Oui. À fond.
Les Beaux Gosses, on l'a
trop
dit aussi
bien.
Vite fait.
Ouais.
Oui, grand
trop
oui pour
bien,
moi
ouais.
Aussi. De Riyad Satouf, qui a aussi fait Jackie au Royaume des Filles, que moi j'ai beaucoup aimé, mais
ouais.
Qui est un peu.
Ça, les Beaux Gosses, c'est cool parce qu'en fait, on a vu beaucoup de teen movie américains, et donc avec voilà, les casiers dans les couloirs, les trucs comme ça, toute cette imagerie-là qu'on connaît pas en France. Et Les Beaux Gosses, c'est peut-être le seul teen movie français qui se passe dans un collège en Bretagne. Avec deux mecs qui essaient de rouler des pelles à des meufs et qui arrivent pas.
C'est trop bien.
Qui est un truc.
Il y en a
classique.
Eu peut-être d'autres, mais qui sont moins. Il y a eu genre Sexy Boys, des trucs comme
ouais.
Ça, mais qui étaient très
ah,
dans la lignée d'American Pie.
Oublié.
Alors que Les Beaux Gosses, c'est
un,
très
français.
Autre. Il y a eu le Nouveau aussi. C'est un
ah
film,
oui,
pas que
c'est très bien ça.
Ouais. C'était cool avec des acteurs pas connus non plus.
Et Les Beaux Gosses, moi, c'est le truc que j'ai vu qui ressemble le plus à mes années collège.
Ouais, ouais, totalement.
Incroyable.
Mais
et c'est le premier film avec Vincent Lacoste qui est à mourir de rire dedans.
Et le ouais du coup premier film de Riyad Satouf qui est très fort pour dépeindre ce côté vrai Jean et vrai français
ouais,
et
ouais,
c'est
ouais.
Un prolongement de Pascal Brutal qui est une super BD et aussi de La Vie secrète des jeunes où il a dessiné des petites scénettes qu'il a vues dans le métro à des cafés et tout qui est génial que je vous recommande qu'un recueil de BD
il,
aussi.
Il avait enfin, fait voilà. Une BD aussi qui s'appelle Retour au collège où il
oui.
Était en immersion dans un collège et qui était génial.
Trop bien avec Bouvier.
Mmh. Ouais.
Voilà, Riyad Satouf génial. La vérité si je mens.
Ouais.
Ouais.
Du mal. Podium.
Ouais.
Film de Yann Moix.
Ouais, ouais.
Ça fait
j'ai
mal de le dire
pas
à chaque
peur
fois.
De...
Bah ouais, après, j'ai pas revu, moi, mais je sais qu'à l'époque, ça me semblait très maîtrisé, mais
c'est...
j'ai vu ça il y a 15 ans. Donc
c'est
j'ai
l'apogée
du mal à...
de Benoît Poulvord.
Ouais,
c'est vraiment.
Ah, on parle de Rolf fait sur mesure, celui-là, pour lui, il est parfait.
Ouais, ouais. Et la même année, je crois, ou l'année d'avant ou après, il a fait un autre film qui est génial qui s'appelle Les Portes de la Gloire.
C'était avant.
Ouais, c'était avant. Et mais c'est genre 2000-2001 les deux films, je crois. Et enfin, c'est les deux films où il est over the top. C'est parfait.
Avant de passer au vote final, je vous propose un petit vrai ou faux. C'est la tradition dans cette émission. Je pense que clairement vous allez trouver les réponses, mais j'ai donc le vrai ou faux. Je donne des affirmations. C'est vrai ou c'est faux. La thématique, c'est les remakes des films français, notamment aux États-Unis. Est-ce que ces remakes de films français ont été faits ou pas? Est-ce qu'ils existent ou non? Ou des questions sur des remakes? Par exemple, la version américaine du film LOL s'appelle LOL USA. Est-ce que c'est vrai, ou faux?
LOL US. USA. Ouais, c'est vrai. Ouais,
ouais, c'est vrai. Ça s'appelle LOL USA.
Ah, c'est USA. Comment c'était USA?
On fait un film français, on fait la version américaine, on met juste USA derrière.
Avec Demi Moore, je crois.
Et Miley Cyrus. Putain. Absolument. Un film dans lequel Steve Carell joue le rôle de Jacques Villeray. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux?
Bah, ouais. Ah bah oui, c'est
vrai.
On l'a dit tout à l'heure.
Un enfer. Tu comptais couper le passage où on en a parlé, c'est ça?
Non, je me suis dit que voilà, c'est pas grave, ça fait des ponts. La version américaine d'Un Indien dans la ville s'intitule Un Indien dans la ville USA.
Faux.
C'est faux, ça s'appelle Un Indien dans New York.
Avec Miami Secu.
Très bon ce film. Hein.
Avec Tim Allen. Sami Nasseri a accepté un rôle dans la version US du film Taxi, donc New York Taxi, car la ville lui a, je cite, donné une seconde chance, sans tenir compte de ses absences, ses préférences, juste une autre chance.
Ah bah, c'est sûrement vrai ça.
Tu cites
c'est
un mensonge du coup.
C'est vrai.
Parce que ça semble.
C'est sa chanson, vous l'avez pas?
Ah, oui, d'accord. Ah.
Donc c'est pas pour ça. Ah,
moi je savais que ça.
C'était un piège.
Non, ça m'a rappelé sa chanson, mais du coup je me disais c'est possible qu'il ait dit un truc comme As du coup. Non. Tu vois,
pas mal.
C'est bien foutu ce quiz.
Que Samina Seria a fait une vraie chanson qui est incroyable, qui sera en lien de cet épisode. Non, il joue pas dedans, mais Jimmy Fallon joue dans le film. Voilà.
Okay.
Un film dans lequel Robin Williams reprend le rôle de Pascal Légitimus.
Attends, on peut trouver nous.
Attends, Robin Williams.
Non, mais il fait exprès parce qu'il veut clasher les inconnus. Légitimus. Mais je le connais, c'est faux.
Ça peut être quoi? Attends, ça peut être le pari. Ça peut être. Après, il joue. Ah non, il joue plus, il joue que dans les trois frères.
Ouais, non, il joue pas dans tant de films que ça.
Il est pas dans l'extraterrestre, il est dans les Rois Mages.
Non, c'est.
Ils ont fait les Rois Mages.
Les Rois Mages, d'ailleurs, on en a pas parlé, mais moi j'adore ce film.
C'est le film préféré d'Anis.
Ouais, je suis assez fan.
Ah,
aussi,
ah ouais,
c'est
ouais.
Non, peut-être pas, mais il
ah, je l'adore. Franchement, je l'adore ce film.
Il aurait peut-être dit ça. Ils veulent manger quelques jompies à un moment, ils disent dans le film. Voilà, je cite une réplique drôle.
Non, c'est faux, monsieur.
C'est vrai.
Ah putain, j'ai envie de trouver.
Attends, on peut trouver le film.
Putain, c'est quoi?
Vas-y, c'est un film de Patrick Braoudé.
Ah bah 9 mois.
Yes.
Ok.
Et il y a un remake qui s'appelle 9 mois aussi, réalisé par Chris Columbus. Et c'est Robin Williams qui reprend le rôle de Pascal Légitimus.
9 months, tu veux dire?
9 months, yes. Oui, bon, écoute, il y a les jaquettes françaises qui sont sorties aussi.
C'est un film sur les grossesses?
Oui.
D'accord.
Plutôt logique finalement.
Et Pascal Légitimus, il jouait l'accoucheur.
Exactement. Et le gynécologue. Il joue gynécologue aussi.
Ok.
Ah, on dit un accoucheur?
Non.
Okay, un sage homme.
Juste moi.
Un film dans lequel Ricky Gervais reprend le rôle de Gérard Jugnot.
Non, c'est une vanne, ça.
Alors.
Il a dit sous le ton de la vanne.
Ricky Gervais.
Il a fait. Non.
Arrête, je fais pas des.
Attends, Ricky Gervais n'a pas fait 20 000 en même temps.
Non.
Allez, c'est une vanne.
Moi, je dis non.
C'est vrai. C'est un remake du film Envoyé très spéciaux. Ah. Qui s'appelle Special Correspondence. Avec Ricky Gervais, du coup, qui reprend le rôle de Gérard Jugnot.
Vous savez que les gens. Pendant que ils vous essayez de trouver, les gens qui nous écoutent, pendant que vous essayez de trouver, ils se font chier de ouf.
Tu connais Tom du montage?
Ouais, j'aurais coupé tous les moments.
D'accord. Non, mais ils ont cherché aussi dans leur tête, si ça se trouve.
T'as déjà regardé la télévision, il y a des jeux.
Non, mais je pense que
les gens, ils ont le droit de réfléchir.
Je pense qu'il y a quelqu'un, qui nous écoute et qui fait putain, s'ils n'avaient pas mis leur temps à chercher, j'aurais pu écouter la fin du vrai ou faux avant ma station. Et du coup, j'aurais eu juste la conclusion pour la prochaine fois
que
j'écoute le podcast.
Tu dis, tu penses que ça lui fait perdre du temps, gars, ou pas?
Non, mais il a un grand sourire parce qu'il se dit « Ouais, Cyrus, exactement
!» Non, mais vous pouvez mettre la musique des chiffres et des lettres. Et quand on réfléchit, ça fait un peu comme à la télé.
On n'a pas, pas les droits.
Je crois qu'on n'a pas les droits, malheureusement.
Bah, tu composes un petit truc, il fait. Voilà.
Et enfin, la version américaine du film « Je préfère qu'on reste amis » s'appelle « Je préfère qu'on reste amiche ». C'est évidemment totalement faux. C'est une boutade. Messieurs, je vous propose de passer au vote final. La meilleure comédie française. Est-ce que vous restez sur vos choix? Est-ce que vous changez d'avis? Cyrus, tu restes sur OSS?
Ah là, je sais pas parce que j'aime bien aussi Mission Cléopâtre. Pour moi, ça mérite ce titre. Ça réunit quand même beaucoup de gens de l'humour en France, de plein de milieux différents, que ce soit le théâtre, que ce soit le stand-up, que ce soit des anciens, des nouveaux, etc. Et c'est très fédérateur, et pour ça, bravo. Et en plus, tout en respectant une œuvre originale. Donc je change mon vote, et ça sera
Mission Cléopâtre.
Mission Cléopâtre.
Yes, aïe. Hugo, est-ce que tu restes sur La Chèvre?
Bah, j'ai adoré tous vos argumentaires. Enfin, en fait, les quatre films, je pense, peuvent être la meilleure comédie française.
On te réinvitera, t'inquiète, hein, t'es pas obligé de.
C'est les films. Non, mais de toute façon, c'est mort.
De toute façon, à moi qu'on dire n'importe quoi. À moi qu'on se mette d'accord tous les deux sur La Chèvre ou La Cité de la Peur.
Et qu'il y aura un vote réseau sociaux derrière.
Ouais, donc La Chèvre.
La dernière fois que je suis venu, ils ont déjà gagné en team, en duo, tous les deux, ces bâtards.
Mais c'est pas forcément souvent.
Tu peux changer d'avis.
Moi, je changerai pas d'avis.
Est-ce que OSS 117, c'est pas loin dans ton cœur quand même?
Mais j'ai, encore une fois, j'ai pas choisi ma préférée. J'ai mis celle qui, pour moi, est la meilleure.
Ah
ce
oui.
qui est différent.
Ah oui.
Okay. Bah, moi, j'hésitais entre les deux, donc tu vois, forcément, voilà, entre La Cité de la Peur et Mission Cléopâtre. Mm-hmm. Mais je me rends compte qu'au fond de moi, il y a un truc un peu stupide qui est que j'ai du mal à me dire que la meilleure comédie française au cinéma puisse être l'adaptation d'une bande dessinée. Parce que du coup, c'est avant tout une bande dessinée. Tu sais, c'est comme si c'était un peu triché, tu vois. Alors, c'est complètement
la
con.
La Cité
hein.
de la Peur, c'est un manga à la base, quand même.
Je pense qu'au fond de moi, il y a un peu ce truc-là. Je me dis, ouais, mais c'est l'adaptation d'une BD. Donc, ça serait quand même un peu.
Non, mais effectivement,
un peu bizarre, tu vois.
Sur les meilleurs films, on en parlait parfois. Et genre, on parlait du fait que c'était des adaptations. Et du coup,
et
je
Mais je suis pas d'accord avec ce que je dis, mais je sais qu'au fond de moi, j'ai ce truc-là.
Okay.
Après, est-ce que Astérix, ça représente pas aussi la France?
Ouais, c'est la comédie française, quoi.
Ouais.
Mais est-ce que du coup c'est pas la meilleure BD marrante, tu
vois? C'est vrai qu'il a raison, plein de gens adorent ce film, il est pas si vieux parce que là c'est chiant, on cite que des vieux machins.
Mais
à part OSS, c'est le plus récent alors qu'il a 12-13 ans, tu vois. Le 1, je pense, un truc comme ça, il est sorti en 2006, un truc comme ça.
Je pense qu'il est plus récent quand même.
Je pense pas, il y en a eu deux, le 2 c'était 2008, donc le 1 c'est 2005, un truc comme ça, je pense.
La phase Sacré Hubert aussi.
Sacré Hubert.
Faisons
comme ça. Et c'est génial. Et du coup, voilà, Mission Cléopâtre, il est pas trop vieux non plus, parce que c'est vrai que La Cité de la Peur ou La Chèvre, on est quand même sur des trucs très très à l'ancienne. Ça réunit la génération Canal, la génération Splendide, Gérard Depardieu, qui est une figure Astérix. Donc c'est vrai qu'en ça, t'as énormément d'arguments, et puis c'est Alain Chabat, et puis c'est À mourir de rire, et puis c'est. Encore une fois, un alignement de planètes, de plein de trucs, d'un mec qui est chaud, tu vois.
Et Isabelle Nanty qui est aussi incroyable dedans.
Ouais, c'est complexe,
Bellucci.
Quoi. Mais j'ai ce petit truc au fond de moi, mais bon, je te laisse dire toi si tu changes ou pas.
Je vais pas changer mon vote, mais je suis pas scandalisé par le résultat qui va être annoncé.
Donc, ok. Aurèle, tu peux garder La Cité de la Peur pour
l'honneur. Ouais, je vais faire comme toi. Je vais garder La Cité de la Peur.
Et nous pouvons
mais
élire.
Je suis content de ce qui va se passer.
C'est rare qu'on élise au premier tour.
Ouais. Astérix.
Généralement, il y a un deuxième tour.
En Russie, on élit beaucoup au premier tour, quand même. Plus.
Ouais.
La meilleure comédie française est Astérix Obélix, Mission Cléopâtre. Bravo. Hugo, merci beaucoup d'être venu discuter avec
merci
nous
à vous.
De tout ça. On te retrouve. Ouf.
Sur Twitter, je suis tout est neutral. Sur YouTube, la chaîne Calmos. Tapez aussi calmos.net, vous pouvez vous abonner à notre newsletter cinéma.
Mais est-ce qu'elle est gratuite?
Elle est totalement gratuite,
wow.
Évidemment. Bah oui.
Ah, ça, c'est cool.
Et vous pouvez aussi m'écouter dans le podcast NDR, où on parle de comédie française. Et puis, de temps en temps, j'écris des articles vaguement.
Vous connaissez que le Floodcast, vous, j'ai l'impression. Vous dites peut-être comme lui.
Juste pour retrouver des idées. Moi, j'écoute juste le Vodcast pour des idées. C'est le seul podcast que j'écoute.
Tu disais jamais peut-être avant d'écouter le Floodcast, j'ai remarqué. Ça a repris son peut-être.
Donc on souffre beaucoup parce que on chronique à peu près toutes les comédies françaises qui sortent. Donc
il y a du boulot.
C'est beaucoup de souffrance.
Aurélien, où est-ce qu'on peut te retrouver peut-être sur ta chaîne YouTube où tu as fêté les 200 000 abonnés, par exemple.
Exactement.
Oui, félicitations.
Bravo.
Sur ma chaîne YouTube où je viens de passer les 200 000 abonnés, effectivement. Bah ouais, sur ma chaîne YouTube, venez, c'est cool. Aurélien Prévost, ça s'appelle. J'aime bien faire des vidéos un peu sympas. Cyrus dit que c'est feel good ce que je fais.
Ouais, grave.
Et j'aime bien essayer d'utiliser le média YouTube.
Elle a l'air trop cool, ta mère.
Pour raconter un peu des petites histoires.
Cyrus,
t'as pas besoin de te justifier.
Je suis un conteur. J'aime bien conter des petites histoires absurdes.
Ouais, c'est très bien, c'est très russe.
Mais je suis pas face cam, mais je dis le petit lapin. Non, c'est de la fiction.
Et ça va loin souvent.
Regardez, c'est cool.
C'est de la fiction, mais sous forme de face cam ou de vlog ou de trucs et tout ça. Et je m'amuse beaucoup sur YouTube, c'est très cool. Et donc vous pouvez me retrouver sur YouTube, ça s'appelle Aurélien Prévost. Vous pouvez me retrouver aussi sur Insta, sur Twitter, ça s'appelle Aurélien Prévost également.
Je crois qu'on peut trouver dans le Floodcast aussi.
Ouais, juste après là, faut que je filasse.
Yes. Cyrus.
Ouais.
Et nous, on se retrouve quand?
Mon cher Tom. Eh ben, on se retrouve, j'imagine, dans 2 semaines.
Y'a pas.
Pour un nouvel épisode.
Du meilleur podcast.
Exactement.
On se quitte en chanson. 3, 4.
Simply the best. Down, 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 down.
Astérix,
Alain Chabat.